avons des procurations, celle de monsieur André Sanchez à Sophie Campagne, de madame Sanchez à monsieur Cravert, de monsieur Cassard qui nous quittera dans un moment parce qu'il y a les vœux de l'agglomération au personnel et que la commune n'est pas représentée, que monsieur Cassard en tant que vice-président représentera la commune. Et ensuite, monsieur Sanchez, c'est monsieur Sanchez. Monsieur Sanchez-Dominique qui donne procuration à madame Muller. C'est ça ? Voilà. Très bien. Voilà, donc, je vous demande d'adopter le procès verbal du dernier conseil qui n'a pas fait l'objet d'observation écrite. S'il n'y en a pas en séance, je le considère comme adopté sans réserve et vous en remercie et ouvre cette séance en souhaitant la bienvenue aux uns et aux autres. Nous venons de traverser une période de vœux qui manifestement n'est pas encore terminée, qui nous a permis de nous voir les uns et les autres, les derniers étant les vœux de la région. Nous avons eu le plaisir d'écouter les vœux de Carole Delga. Voilà. Et donc, merci à ceux qui ont été présents aux différentes manifestations, y compris celle du 12 janvier, où la commune a présenté ses vœux à la population et aux institutionnels. Voilà. Donc ça, c'est pour la mise en bouche. Un débat d'orientation, un rapport d'orientation budgétaire qui sera l'objet d'un débat. Une petite innovation, nous avions pour habitude de faire un conseil municipal dans lequel prenait place le morceau de choix qui était le débat d'orientation budgétaire. Eu égard à l'importance de cette orientation, eu égard à notre volonté, à ma volonté d'associer tout le conseil municipal au débat, nous n'avons mis aujourd'hui à l'ordre du jour que le débat d'orientation budgétaire, le budget de la commune, le budget du port, et puis les dispositions relatives, disons, à l'exécution budgétaire, qui sont les autorisations de programme. Voilà. De sorte que, si dans le passé, par le passé, j'ai entendu quelques observations qui étaient du style qu'on présentait un pré-budget. Aujourd'hui, donc, c'est véritablement une discussion qui s'ouvre, avec, bien sûr, un rapport d'orientation budgétaire, des orientations qui vont être données par notre adjointe aux finances, madame Favier. Je vous propose de la laisser dérouler et ensuite de reprendre éventuellement les points sur lesquels vous voulez des éclaircissements, les points sur lesquels vous voulez faire des propositions. Voilà, de sorte que le budget qui sera voté le 19 février aura pu se nourrir de ces choses-là. Voilà. Monsieur Pradeil.
Comment
bien sûr. Non, mais j'introduis le sujet. Simplement, je dis que bon, le reste, c'est, j'allais dire, c'est important, bien sûr, mais ça ne suscite pas une. Ça suscitera peut-être des commentaires, peut-être en avez-vous. Voilà, donc on commence par les décisions municipales, donc celles qui sont inscrites en première page, dont vous avez les différents éléments qui vous a été proposé, les contrats de spectacle, les décisions destinées en justice. Nous avons souvent des contestations en matière d'urbanisme. C'est la voie de la démocratie, donc régulièrement, nous avons des frais d'avocat pour représenter la commune dans ses approches, avec notamment une dernière relative à l'avant-port de Carnon, donc qui doit se juger jeudi, hein, c'est ça ?
Ce jeudi. Le vendredi.
Vendredi, voilà. Voilà, en référé. Voilà. Ensuite, vous avez donc les conventions, les marchés publics, les procédures adaptées comprises entre 25 000 et 90 000 euros. Donc, vous avez le pavage de la place Saint-Marc, Carnon. Vous avez l'impression des documents de communication, des fournitures, de papeterie de bureau, qui font l'objet d'un grand marché. Pour les procédures adaptées supérieures à 90 000 euros, donc on a la le marché de grosses œuvres, démolition de la reconstruction de la base nautique à Carnot, qui occupe la plupart du chapitre. Des chapitres, voilà, avec les différents lots, les fournitures, les différents intervenants. Ensuite, vous avez d'autres travaux à Moggio relatifs à la maison Estève. Vous savez que la maison Estève, c'est sur le boulevard d'Estienne d'Orve, un lieu qui va être donc réhabilité au bénéfice du CCS et de ses missions. Voilà, donc ce sont des travaux là, qui font l'objet de marchés, qui sont décrits. Et ensuite, nous avons des avenants par rapport aux travaux d'extension du restaurant scolaire Jean Monnet. Vous verrez que cette année également, nous avons forcé le trait sur la rénovation des bâtiments scolaires et l'animation. Nous avons ensuite les bâtiments sportifs, location de véhicules, fourniture de matériel informatique. Là aussi, vous le verrez, on envisage d'affecter pas mal d'argent pour la rénovation des logiciels. La maintenance et photocopieurs, enfin des choses classiques. Voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas d'observation là-dessus, je vous demande d'en prendre acte. Monsieur Pradel ? Oui.
Monsieur le maire, j'ai une ou deux questions.
Oui.
Par rapport à la numéro 112, création d'une régie d'avance pour la promotion et le développement d'audience sur les réseaux sociaux, je n'ai pas du tout compris ce que ça pouvait être.
Oui, c'est rien du tout, mais le problème, c'est que pour payer les instructions, il faut une carte bancaire. Qui dit carte bancaire dit régie d'avance et de recettes.
D'accord, ce sont pour nos insertions.
Exactement. Oui, c'est pas du tout. C'est pas une décision politique, c'est une décision, j'allais dire, technique. Voilà.
Cette régie est installée au service communication.
Voilà.
Je fais une dégression sur notre communication Internet. J'ai vu qu'on avait été. Malheureusement, on a fait une communication cet après-midi pour appeler les pauvres Melgoriens qui n'arrivent pas à se loger. À se manifester auprès de l'émission de Stéphane Plaza, qui est aussi une chaîne immobilière. J'ai trouvé que c'était pas très raccord, puisque notre travail ici, c'est d'essayer d'aider les gens à se loger, à maîtriser notre foncier.
On le fait au quotidien, on le fait pas sur une coup de pub, on est d'accord.
Et en plus, bon, faire pour la chaîne M6 ou pour la chaîne d'agence immobilière de Stéphane Plaza, un petit coup de pub par le biais de la communication municipale, j'ai trouvé que ce n'était pas du tout opportun. Donc je profite de ça pour.
Vous savez très bien que les coups de pub, ce n'est pas ce qui nourrit notre démarche au quotidien et que la politique sociale, avec les règlements qui ont été mis en place au niveau du CCS, dont la communauté agglomération ne va pas tarder, j'espère, à s'inspirer, milite quand même pour une attention au quotidien. On y voit là, peut-être, vous y voyez un coup de pub. Pour moi, ce monsieur, je ne le connais même pas. C'est une opportunité qui s'est présentée. Si on peut donner un coup de pouce à une famille, on donne un coup de pouce à une famille. C'est arrivé déjà par le passé. Alors c'est vrai que ça fait toujours l'objet de discussions. Alors c'est un... Enfin, on n'est pas dans...
Non, mais disons que c'était que comme c'est un gros business et que ça, comme ouais. Ça ressemble un peu à du pain et des jeux, c'était.
Bon, vous attirez notre attention sur le fait que.
C'était pas une communication
heureuse. Ouais.
Sur.
C'est votre avis. Allez-y.
Sur les mises à disposition de locaux pour le département et pour la MSA, on pourrait. Le département, c'est la 113. Convention de mise à disposition de locaux au profit du conseil départemental.
Oui. La 113 ?
C'est la.
Oui,
non, mais
oui,
la.
La 122.
Non, j'ai la 122. Non, la décision 113.
D'accord. Je vous donne ça. C'est les locaux du CCS, place Jules Ferry. Vous savez, on a un accueil commun avec le CCS.
D'accord.
Voilà.
Donc, c'est juste un renouvellement dans le cadre des locaux
oui,
du CCS.
Et nous avons, disons, pour maintenir l'agence et pour inciter le département à la maintenir, nous avons proposé la mutualisation des accueils. Et une rénovation qui a été faite par nos services et dont se félicitent les usagers.
Sur le fait que le département, j'ai l'impression que le département a bougé par rapport à son agence. C'est plus une agence de plein exercice, c'est ça. Le conseil municipal n'a pas à s'inquiéter de ça.
Non, je n'ai pas de. le département repositionne peut-être sa politique en matière de présence sur les territoires. À ma connaissance, on a été dépossédé de rien. Si ce n'est que la manière de travailler des départements au niveau de l'insertion, au niveau des commissions, des commissions de redynamisation au niveau de l'emploi, ça ne se fait plus au niveau de Moggio, ça se fait tout au niveau de Jacou, au CIRSA de Jacou. Ça ne se fait plus de manière délocalisée. Mais ça n'est pas spécifique à Moggio, à ma connaissance. À moins que, voyons, qui c'est qui est au conseil? Est-ce que Bernard, tu as une... Est-ce qu'on a une... On a les mêmes fonctions, les mêmes... Le contenant...
Non. Si le fait que ce ne soit plus une agence de plein exercice, ça ne pose pas de problème.
Non. Non, moi je n'ai pas... Peut-être vous avez l'information dans ce sens. Nous ne l'avons pas. Il n'y a rien d'officiel et rien d'officieux. Non, bon. Non, Madame Grès, vous êtes on pourrait renseigner M. Pradeille.
Il y a déjà quelque chose, la présence de l'État continue sur la... Il y a quand même quelque temps déjà que leur présence n'est pas continue sur la semaine comme elle était auparavant. Alors,
à ma connaissance, M. Pradeille, je n'ai été saisi d'aucune modification dans le fonctionnement. Et dans le fonctionnement du CCS, aucune délibération, c'est la raison pour laquelle volontairement je me tourne vers Mme Grès, qui siège au conseil d'administration, on n'a pris aucune délibération qui milite pour une réduction ou une modification des accueils et des partenariats. À moins que quelque chose ait été voté cette année, non. Pas ma connaissance. Non.
Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait des réorganisations au sein du département et j'attire l'attention du conseil municipal.
Oui, je note que vous faites la différence entre une agence de plein exercice et alors là, sa dénomination serait laquelle, selon vos informations?
Ce serait une antenne.
Bon, très bien. Écoutez, on le vérifiera, mais vous m'alertez sur un sujet qui n'a fait l'objet d'aucune... discussion ni information particulière.
On saurait peut-être aller au-devant, peut-être aller à la corne sur cette question-là.
Peut-être. Très bien. Bien. Merci pour ces éléments. Donc, je vous propose, sans plus tarder, de rentrer dans l'objet principal de notre réunion de ce soir, qui est, disons, la présentation. Alors, c'est le rapport d'orientation budgétaire, puisque c'est ainsi qu'il se dénomme depuis l'année dernière, un rapport qui fera l'objet d'un débat. Donc je vous invite, si vous voulez, à écouter la parole que porte Caroline Favier, et ensuite on commentera, comme vous le souhaiterez, sur les différents points. Hein? Allez, on y va. Caroline, vas-y, alors.
Alors, le rapport d'orientation budgétaire se doit d'informer l'équipe municipale sur la situation économique et financière de notre collectivité, tout ça pour éclairer sur le budget primitif qui sera voté au prochain conseil municipal. Donc, il nous permet de vous présenter les orientations budgétaires de la commune en termes de fiscalité, de dépenses de fonctionnement et sur la structure des effectifs. Il nous permet aussi de présenter la programmation des investissements. Jusqu'à la fin du mandat, il nous permet de vous présenter les orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels, c'est-à-dire le PPI. Et il nous permet de vous présenter l'évolution de la situation financière de la collectivité. Donc, il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer, c'est ce que vous disiez, monsieur le maire, en introduction, puisque c'est la volonté de l'équipe, sur les stratégies financières de la collectivité. Alors, cette année, sur 2018, il y a deux points qui vont fortement impacter la stratégie financière de la collectivité. Le premier point, ce sera les nombreuses dispositions réglementaires. Je vous les ai présentées dans un premier temps. Donc, en gros, c'est ce qu'on va subir, ce qui va nous être imposé. Et la deuxième, c'est la mise en place du schéma directeur, c'est-à-dire, là, par contre, la volonté... politique de faire pour la commune et plutôt nos impulsions. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte général et notamment ces fameuses contraintes qui vont s'imposer à nous pour 2018 au travers de la loi, sur les finances publiques. Alors, en 2018, il y a une chose qui change, qui est très importante, c'est que l'association des collectivités territoriales à l'effort de redressement des finances publiques change de forme. Je m'explique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on nous a baissé les dotations globales d'État. Or, maintenant, c'est plus ce qui va se passer, mais par contre, on va nous demander de maîtriser nos dépenses publiques. Donc, au niveau de l'impact sur Mobio-Carnon, concrètement, la commune a contribué au redressement du déficit public sur 2014-2017 à hauteur de 1 581 000 euros. C'est-à-dire que la DGF, pour vous resituer concrètement, en 2015, on avait 1 650 000 euros de dotation d'État contre, en 2017, 753 000 euros. Donc, aujourd'hui, alors, grâce à une stratégie financière et de pilotage, ça ne nous a pas pénalisé en termes de santé financière pour la commune. Ça nous a quand même permis de continuer à dégager des marges de manœuvre. Donc, pour le 2018, la procédure change. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de réduction des dotations. Mais par contre, il y aura un double objectif au niveau national pour les collectivités. Alors le premier, c'est que nos dépenses réelles de fonctionnement ne devront pas augmenter de plus de 1,2%. Donc là, on nous demande vraiment une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. La deuxième chose, c'est l'objectif national d'évolution du besoin annuel de financement des collectivités locales. Je suis désolée, c'est un peu lourd, mais bon, c'est comme ça que ça se nomme, devra être de moins de 2,6 milliards pour arriver à un désendettement total de 13 milliards sur les 5 ans. En résumé, ça veut dire qu'on nous demande aussi de réduire notre endettement. Donc, au niveau de... Et cette réduction doit être de 2,6 milliards d'euros sur 5 ans et tous les ans. Alors, milliards, je ne parle pas de Mobio-Carnon, hein, je parle de
Nous, on a économisé 1,5 million depuis entre 2013 et 2017. C'est notre contribution au redressement des comptes publics. On reprend.
Alors, au niveau de. Du ratio de Alors, il y a un autre ratio qui va être sous haute surveillance aussi, qui est le ratio de désendettement. Alors, la capacité de désendettement, c'est-à-dire le ratio entre nos encours de dette et notre épargne brute, ce ratio prend en compte le budget principal et est défini en nombre d'années. Donc maintenant, ce ratio ne devra pas dépasser 12 ans pour toutes les communes. Alors, au niveau de Mobio-Carnon, nous sommes très bien placés, puisque ce ratio pour nous, aujourd'hui, est à 3 ans, et sur 2018, sera un peu plus important, 5 ans, puisque on a quand même le schéma directeur et beaucoup de projets qui sont à venir à réaliser. Donc, les mesures fiscales... Alors, dernier point aussi, c'est important pour situer le contexte général... C'est la fameuse taxe d'habitation et le dégrèvement qui est proposé sur les années à venir jusqu'en 2020. Donc vous connaissez le principe. À compter de 2018, on a un nouveau dégrèvement qui s'ajoute aux exonérations existantes, puisqu'il vise à dispenser de taxe d'habitation sur la résidence principale, bien sûr, environ 80% des foyers d'ici 2020. Alors ça va se faire d'une façon progressive sur 3 ans. On a un abattement de 30% maximum en 2018, de 65% en 2019 et de 100% en 2020. Ce dégrèvement est proportionnel, enfin pas proportionnel, ce dégrèvement dépend du revenu fiscal de référence des citoyens. Et alors, quel en est l'impact pour Mobio-Carnon ? À ce jour, on n'a pas d'impact, c'est-à-dire que ça reste bien un dégrèvement. Donc pour l'instant, il est compensé par l'État. Au même titre qu'on avait des dégrèvements qui continuent d'ailleurs, qui vont toujours persister sur les années qui arrivent, pour les personnes âgées à faible revenu, enfin revenu modeste, et pour les personnes veuves. Donc, vous, au niveau de l'impact, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ce dégrèvement est compensé et sera compensé par l'État. Mais on ne sait pas à moyen terme, donc le risque est là, c'est-à-dire le dégrèvement peut se transformer en exonération plus ou moins compensée et surtout voir disparaître la taxe d'habitation. Donc comme je vous le disais, les autres mesures de dégrèvement, elles restent maintenues au niveau de la taxe d'habitation. Alors, un autre point pour vous resituer le contexte général, c'est la revalorisation forfaitaire des bases. Alors, en 2017, cette revalorisation des bases était très minime puisqu'elle a été de plus 0,4%. Par contre, à compter de 2018, elle va être automatisée et elle va dépendre, elle va être indexée sur l'indice des prix à la consommation. Donc, la projection pour Moggio-Carnon 2018, ce sera une progression de plus 1,70%. En conclusion, sur ce contexte général, on voit que la contribution des collectivités au redressement des comptes publics va se faire au travers de deux outils. Le premier, ce que je vous disais, l'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités qui va être bien encadré, limité à plus 1,2%. La deuxième, ce qu'on appelle la règle d'or, qui est le nouveau ratio obligatoire, la capacité de désendettement qui va être sous surveillance et qui sera limitée à 12 années. Une réforme de la taxe d'habitation qui pourrait conduire à sa disparition et à une refonte plus large de la fiscalité locale.
Ça, c'est le cadre réglementaire.
Ça, c'est le cadre réglementaire qui nous est imposé pour 2018. Ensuite, je vais vous développer les tendances budgétaires et les grandes orientations de la commune. Alors, on va commencer par les recettes de fonctionnement. En 2017, elles étaient marquées par la quatrième année de baisse de dotation, c'est ce que je vous disais précédemment, moins 346 000 euros. Les recettes de fonctionnement se sont quand même maintenues sous l'effet de la progression des droits de mutation. En raison d'un contexte favorable, on le connaît tous, c'est-à-dire que le marché de l'immobilier était porteur et les taux d'emprunt très bas. La progression de la taxe de séjour, alors ça c'est grâce à un travail très important et productif fait par nos services au sein de la collectivité.
Et l'office du tourisme.
Et de l'office du tourisme. Et une augmentation des redevances versées par les délégataires des plages privées. Alors, je vais vous donner quand même une notion de montant. Pour la taxe de séjour, donc le travail effectué par nos services, sur 2017, on a perçu 205 000 euros, une augmentation de 21 000 euros par rapport à 2016.
10%.
Pour les droits de mutation, nous avons perçu 1 180 000 euros, une augmentation de 365 000 par rapport à 2016. Et au niveau des plages, 413 000 euros, une augmentation de 273 000 euros par rapport à 2016.
Ça nous amène à 659 000 euros. Comme quoi, on récupère nos petits, monsieur Prédé.
À partir de 2018, donc pas de baisse de dotation de l'État, je viens de vous l'expliquer. Les recettes fiscales vont progresser en 2018 sous l'effet de la revalorisation des bases et de leur augmentation physique, ça on l'a vu, par rapport au dynamisme de la taxe sur l'électricité, de la taxe de séjour et de la taxe sur les droits de mutation. L'analyse prospective de 2018 et 2022, pour information, tient compte des futurs logements de la Fonde de Moggio. Donc, les taux de fiscalité pour la commune n'augmenteront pas pour les ménages. On vous a remis un tableau sur nos taux de fiscalité, donc qui reste identique. Taxe d'habitation, taxe foncière sur le non bâti. L'attribution de compensation, c'est-à-dire la fiscalité reversée par la communauté d'agglomération, sera modifiée en septembre 2018 dans le cadre de la nouvelle organisation de la semaine scolaire. Donc, entraînant la modification des temps périscolaires, la commune, engagée dans une démarche globale de réussite éducative, étudiera la mise en place de dispositifs qui vont permettre d'éviter le décrochage scolaire en intégrant des différents acteurs intervenant dans la sphère sociale et éducative. Donc ça, on est en train de voir le chiffrage, etc., pour voir ce que ça représente et ensuite voir la réintégration due à la nouvelle organisation. Les recettes réelles de fonctionnement ont donc augmenté en 2017 par rapport à 2016 de 2,41%. Alors, au niveau, pour une première conclusion, au niveau des recettes de fonctionnement, on peut dire qu'elles ont évolué positivement en 2017, malgré la baisse de la DGF, sous l'effet, comme je vous le disais, de l'augmentation de la fiscalité indirecte, hein, donc taxe de séjour, droit de mutation, et de l'augmentation des redevances versées par les délégataires des plages privées. En 2018, la réforme de la fiscalité n'aura pas d'impact sur l'évolution des recettes. Le dynamisme de la taxe sur les droits de mutation et taxes indirectes donne un bol d'air aux finances de la commune. La commune n'augmentera pas ses taux de fiscalité pour financer les travaux inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement, ce qu'on appelle plus familièrement le PPI. Alors on va passer maintenant, après les recettes de fonctionnement, aux dépenses de fonctionnement. Donc, les dépenses de fonctionnement, vous savez que vous connaissez l'historique. La hausse a été jugulée depuis 2013. L'année 2015 est marquée par une forte décélération et en 2016, la baisse était estimée à 3,33%. Cette décélération était principalement due au plan d'économie lancé en 2015 et 2016, à une gestion prévisionnelle des emplois et compétences et à l'optimisation de la gestion de la dette. À partir de 2017, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 4,88% malgré une très faible augmentation du poste des dépenses de personnel. On en avait parlé, elles ont été maîtrisées avec une évolution de 1,60%. Cette hausse est due à la croissance des charges à caractère général et au paiement de la pénalité de la loi SRU des 422 000 euros. En 2018, donc, toutes ces dépenses de fonctionnement vont augmenter de 2,67% malgré le développement continu de la commune. Ça nous demande un travail important. Chaque service ont pris en compte, a su prendre en compte sur la présentation du budget cette contrainte de maîtrise d'évolution des dépenses de fonctionnement. Alors, le fonds de péréquation intercommunale, c'est-à-dire le FPIC, compris dans nos dépenses, bien sûr, de fonctionnement, en 2018, on aura une augmentation de 2% liée à l'évolution de l'enveloppe. La loi de pénalité, loi SRU, donc comme je vous le disais précédemment, en 2017, on a eu une participation à hauteur de 422 000 euros. Et en 2018, on peut le dire, grâce au travail performant de Monsieur le maire et de Monsieur le premier adjoint, et grâce au projet de la fonte de Mobio, la commune sort du dispositif jusqu'en 2020 de cette pénalité. On n'aura donc pas cette pénalité à payer.
On a évité surtout le pire, mais cette pénalité ne sera pas exigible tout autant que nous resterons dans une configuration de la communauté de 50 000 habitants. Le jour où on va dépasser le seuil des 50 000 réels, on risque d'être réintégré malgré nos efforts. Et ce qu'on a évité, puisqu'on est passé devant une commission, je vous en avais parlé de son temps, c'était d'éviter ce qui est arrivé à Saint-Georges-d'Orc et à certaines municipalités qui se sont vues infliger des pénalités x4 ou x5 par la préfecture au motif qu'elles n'avaient pas déployé, compte tenu du retard qu'elles avaient, les efforts nécessaires pour montrer leur bonne volonté à rattraper le déficit en logements sociaux.
Au niveau de nos dépenses de fonctionnement, rentrent aussi à l'intérieur les intérêts de la dette. Donc, les intérêts sont en forte diminution, moins 9,87%. Une diminution importante des frais financiers forcément en découle. Donc, c'est suite à une optimisation de la gestion de la dette, c'est-à-dire qu'on a fait réviser nos prêts. Trois prêts sont encore en cours de révision. Et aussi dû à la fin de certains prêts. Donc, en 2018, on a aussi une nouvelle dépense de fonctionnement qui est la participation versée au service départemental d'incendie et de secours, qui vont augmenter de 90 000 euros par an pendant 4 ans afin d'actualiser la participation de la collectivité.
Je me permets de préciser que c'est une somme qui a été calculée par le département. J'ai écrit au président Hébert Mesquida pour lui demander quand même une réunion de précision sur ces sommes qui sont colossales, puisque c'est pendant 4 ans ou 5 ans, et qu'il m'a été répondu par les services, mais pas par les élus, qu'il y avait eu une modification des clés de répartition pour que l'effort de solidarité, et ainsi de suite, soit il est recalculé. Si ce n'est que ce recalcul, sans qu'on soit associé et qu'on ait compris, peut-être qu'on payera cette somme-là, peut-être moins, donc nous avons quand même demandé au département un éclaircissement là-dessus. Ça peut avoir. Ah non, mais je fais référence à. Ça c'est pas la perte de l'agence de. Là, c'est vraiment ces 90 000 euros qui nous tombent dessus. Enfin.
Au niveau de nos dépenses, on rajoute aussi 10 000 euros à la somme versée au CCAS en 2018. Au niveau des dépenses de personnel, donc on va voir le détail. Une augmentation limitée en 2017, je vous le disais auparavant, à 1,6%, malgré l'augmentation du glissement vieillesse-technicité, qui traduit une véritable volonté de maîtriser la masse salariale. Au niveau de la structure de nos effectifs, vous avez un tableau au niveau des titulaires, dont stagiaires. Alors en 2017, on avait 310 personnes. Et prévision 2018, 317. Alors juste un point pour éclaircir, là il ne s'agit pas de cette création de postes, mais d'un changement de statut, c'est-à-dire que ce sont des contractuels qui deviennent titulaires. Je n'ai pas d'augmentation d'effectifs, puisque...
Oui, c'est simplement une volonté de lutter contre la précarisation.
Tout à fait.
Il y a des personnels qui font des remplacements depuis des années, qui ont fait leurs preuves, donc nous avons voulu les intégrer. Nous avons à peu près 50 personnes qui sont contractuelles, qui sont dans les effectifs, mais qui ne sont pas recensées dans le récapitulatif titulaire d'un stagiaire. Il y en a 50 en plus. Et donc, c'est parmi ces contractuels que nous pérennisons quelques postes.
C'est ça. Et sachant que le service DRH, à chaque départ d'un agent à la retraite ou en mutation, engendre une réflexion mener sur l'opportunité du remplacement de l'agent en question. Donc un gros travail a été effectué par ces services.
J'ajouterai aussi que l'annualisation du temps de travail qui nous a permis de gagner l'équivalent de 14 équivalents temps plein sur l'ensemble des personnels plaide pour une capacité supérieure de travail, même s'il y a une extension de certaines tâches ou d'entretien, au niveau administratif ou au niveau opérationnel.
Au niveau, même chose, des effectifs de saisonniers, donc un gros effort a été fait, puisque 2017, nous étions à 175 saisonniers, prévision 2018, 169, dont 66 SNSM, enfin pour la SNSM. Au niveau de 2017, il y a eu une augmentation effectivement des saisonniers, notamment pour le renfort au niveau des parkings de Carnon. Donc pour 2018, il est proposé une prévision équivalente à l'année dernière, sans compter les saisonniers chargés aussi pour la traversée avec le bac de Carnon, donc qui représente une économie de 13 000 euros.
En sachant que l'accroissement des charges des saisonniers a justifié une recette nettement plus importante, puisque c'était la première année en 2016 que nous avions mis en service les parkings à Carnon, et que l'expérience a montré qu'il fallait accompagner la sortie de certains véhicules, que l'adjonction de certains saisonniers nous a permis d'éviter les débrayages qui nous ont fait perdre des sommes colossales lors des week-ends du 14 juillet l'année dernière, par exemple, où on a perdu en peu de temps 15 à 20 000 euros. C'est-à-dire que ce sont des charges supplémentaires largement couvertes par des recettes supplémentaires. Voilà. Mais là, il y a vraiment une justification. On laisse se déployer, puis garder la question tout à l'heure. D'accord.
Au niveau des grilles indiciaires, il n'y a pas de modification annoncée pour 2018, donc pas d'augmentation de la valeur du point pour 2018. Au niveau des dépenses, au sujet des heures supplémentaires. Alors pour 2017, on a eu une augmentation du nombre d'heures supplémentaires qui était due tout simplement aux 4 tours d'élection. Le montant s'est élevé à 19 662 euros. Il est donc proposé pour 2018 de prévoir cette dépense à hauteur de celle de 2017, c'est-à-dire sans les élections, c'est-à-dire avec les 20 000 euros en moins. Au niveau du temps de travail, alors afin de garantir le décompte des 1607 heures annuelles, la mairie de Mouguio s'est engagée dans une large réflexion autour de cette question sur le temps de travail. Donc dès lors, dès le 1er janvier 2016, un jour de congé exceptionnel a été supprimé pour l'ensemble des agents. Cette année, en 2017, c'est le nombre de RTT qui est réduit afin d'être amené à 15 par an, correspondant au nombre devant être attribué aux agents effectuant 37h30 par semaine. Et enfin, une large concertation auprès de l'ensemble des services a été menée afin de travailler sur une nouvelle organisation du temps de travail qui respecte nos obligations légales et bien sûr améliore le service public. Ainsi, les services municipaux sont organisés sur la base de 1607 heures depuis le 1er novembre 2017. Alors, le ROB doit aussi faire état de la politique de ressources humaines de la collectivité et de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes. Donc, c'est pour ça que vous avez eu aussi toute une série de tableaux donnant les effectifs et la répartition de la fonction de chacun à l'intérieur de la commune. Donc sur 349 agents titulaires et contractuels, nous avons 177 femmes et 172 hommes. Alors je ne vais pas reprendre tout le détail que vous avez à l'intérieur. Par contre, au niveau de la répartition par catégorie et emploi de direction, donc au niveau des cadres, sont représentés les cadres par 56% de femmes et 44% de messieurs. Au niveau des promotions professionnelles, donc le nombre d'avancements de grades en 2016 est équivalent pour les hommes et pour les dames. Après, vous avez tout le détail plus en profondeur.
On a 16 cadres H et 9 dames, 7 hommes. 31 cadres B, 17 dames, 14 hommes. Et 302 catégories C. Voilà. Donc les dames sont numériquement plus importantes. Et même dans les postes de direction, on a davantage de dames, oui, effectivement, comme cela l'a dit, que les hommes. C'est un constat. Allez-y.
Alors, pour la première conclusion, puisque l'idée quand même entre les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement, la première chose à regarder, c'est le fameux effet ciseau dont on vous parle depuis 2015. Donc là, à nouveau, on voit que l'effet ciseau est reporté puisque nos dépenses, nos recettes sont supérieures aux dépenses de fonctionnement. En conclusion, par rapport à ces dépenses et recettes, donc les dépenses publiques de la collectivité deviennent un enjeu majeur, vous l'aurez compris, aussi bien sur les moyens de fonctionnement que sur le choix du niveau de qualité du service. Les enjeux sont également de maîtriser les risques économiques, juridiques, organisationnels et d'améliorer en parallèle le pilotage en anticipant les évolutions, tout en assurant la cohérence des actions menées. Donc afin de répondre à ces contraintes, nous devons être en situation de maîtriser les moyens et les activités de la collectivité afin de garantir un fonctionnement efficace et efficient. Rendre l'organisation plus efficace, rationaliser les moyens de gestion, poursuivre la modernisation des systèmes d'information. L'administration est en ordre de marche au travers du projet d'administration. Il y a 5 axes de progrès qui sont déclinés, permettant de répondre aux nouveaux enjeux. La gouvernance et transversalité, l'efficacité et qualité de service à l'usager, optimiser les richesses humaines, optimiser les fonctionnements et une administration éco-responsable et durable.
Je dirais que le préalable à ce travail au niveau du projet d'administration est également une approche au niveau des risques psychosociaux, où un gros travail est mené avec l'ensemble des personnels et l'ensemble du centre de gestion pour justement travailler sur les charges, les valeurs managériales, l'amélioration de tout ce qui contribue au mieux-être au travail.
Et alors, une fois qu'on a vu nos dépenses, enfin nos recettes, nos dépenses de fonctionnement, qu'en fait-on ? Eh bien, on passe au PPI, c'est-à-dire à l'investissement. Donc, quel est notre plan pluriannuel d'investissement et nos capacités d'investissement ? Donc, pour 2018 et jusqu'en 2022, notre PPI s'élève à 31 293 000 euros en intégrant les travaux liés, bien sûr, au schéma directeur, qui est la priorité, l'outil central, on va dire, maintenant. Le PPI est financé par l'autofinancement, c'est-à-dire tout ce qui est FCTVA, la TLE, l'épargne, les subventions, les cessions d'actifs et l'emprunt. Donc, pour financer notre PPI, il faudra prévoir un emprunt d'un montant de 5,8 millions d'euros sur la durée du mandat, dont 4,6 millions d'euros en 2018. Alors, quand on dit 4,6 millions d'euros en 2018, c'est une enveloppe. Bien sûr que ces fonds seront débloqués au fur et à mesure de la réalisation des investissements. Alors, ensuite, quels sont nos ratios indispensables pour encadrer nos dépenses d'investissement ? Toujours, on a deux ratios qui sont très importants, c'est toujours notre épargne brute ou l'autofinancement et la capacité de désendettement. Donc, le premier ratio, notre épargne brute, donc ce sont les recettes de fonctionnement moins nos dépenses de fonctionnement. Alors, à quoi ça sert ? Ben, ça nous permet de voir notre capacité à absorber les nouvelles dépenses de fonctionnement et notre capacité aussi, bien sûr, derrière, à investir et à se désendetter. Ensuite, alors, notre épargne, voilà, on a un tableau qui est là. Donc, on voit que notre épargne brute baisse peu à peu sur les années à partir de 2018, bien sûr, puisqu'il est dû à nos investissements. La capacité de désendettement, qui est le deuxième ratio extrêmement suivi, donc c'est notre encours de dette, le stock, par rapport à notre épargne brute. Alors, ce ratio pour nous en 2017 est de 3,5 années pour la commune, et va peu à peu aller jusqu'à 7 années, même chose par rapport à notre volonté d'investir et de faire des réalisations pour la commune. Sachant que la zone d'alerte, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la fameuse règle d'or où maintenant les communes ne devront pas dépasser 12 ans. Donc Mogio-Carnon, il n'y a pas de souci, on s'arrêtera bien avant. Alors, pour information, vous savez qu'on a un projet, pour l'instant il n'y en a qu'un, les prochains à venir il y en aura plusieurs, qui est sur une autorisation de programme et de crédit de paiement. C'est la réhabilitation de l'îlot Prévert, puisque là on ne prévoit au crédit dans le budget que ce qui va être dépensé sur l'année en cours. Donc pour Prévert, sur 2018, il nous reste 3 285 000 euros. Je vous fais un petit point sur notre dette. Donc, notre capital qui reste à rembourser est de 10 891 831 euros. Le taux moyen de notre dette est à 3,83%. Je vous le disais, on a encore trois prêts à négocier. On a attendu le dernier moment parce qu'on sait que c'est sur cette période-là qu'on va obtenir le meilleur taux, le plus bas. La composition, alors comme je vous le disais tout à l'heure, l'intérêt de notre dette est en baisse, moins 9,87%. Quoi vous dire de plus ? Si 100% de notre dette est classée 1A, c'est-à-dire sans aucun risque, on a une dette sur des taux d'intérêt fixes, il n'y a absolument pas indexé à des choses dangereuses. notre en cours ratio, notre ratio pardon, en cours de dette sur les recettes de fonctionnement est extrêmement bien positionné et notre capacité de désendettement, je viens de vous le dire, même chose, est extrêmement performant. Donc, au niveau de l'étude de notre dette, je vous le disais, elle est saine. On a une capacité de désendettement qui est performante. Il reste une piste d'optimisation sur les trois derniers prêts qui nous restent à négocier et la possibilité pour la commune de financer un PPI élevé, ambitieux, hein, je vous le disais tout à l'heure, de 31 millions, avec un volume d'emprunt estimé à 5,6 millions. Voilà pour notre rapport d'orientation budgétaire de Mobion. Arnaud.
Alors, avant de vous donner la parole, tout à l'heure, Madame Favy a parlé des figures imposées qui étaient les cadres réglementaires. Et les figures libres, ce que j'appelle les figures libres, c'est surtout le sens qu'on veut donner à ce budget. Parce que jusqu'à présent, on vous a parlé de sommes, on vous a parlé de risques, on vous a parlé de sécurisation de la part de la manière dont les comptes sont tenus. Moi, je vais vous dire un petit mot sur le contenu. J'aurais pu commencer par ça. Donc, je redis ce que j'ai dit au vœu, c'est-à-dire que ce budget, cette année qui va être proposée, qui est un budget sur la base de 12 millions d'investissements, 23 millions de fonctionnement, est un budget qui est au service du cadre de vie, avec une mise en exergue des patrimoines, patrimoine naturel, patrimoine historique. Madame Favier a parlé de Prévert, on a aussi le château. On aura la capitainerie, on aura la base nautique, pour ne citer que cela. Donc, on va travailler également avec l'OT sur la promotion du tourisme et de l'économie sur notre ville, au sens large du terme, pas que sur Carnon. C'est-à-dire qu'il y a un travail de transversalité qui s'opère entre les différents services. L'Office est en charge de faire la promotion de toute la commune. On va travailler, alors, certaines... On a parlé du schéma directeur. Le schéma directeur, c'est quoi? C'est un moyen. En fait, ça pourrait s'appeler, c'est un projet de vie, le projet de vie. C'est comment on y arrive, avec un outil. On désigne par là une volonté de déployer une vision dans le temps. C'est ça, finalement, ce schéma directeur. C'est comment on voit la ville, ses fonctionnalités, dans les 10 ans, 15 ans qui viennent. C'est un outil de programmation, un peu, servi par un PPI. Et donc, ça va se traduire. Ça s'est traduit déjà par deux études... stationnement et circulation à Carnon, une sur le tourisme qui n'est pas encore livré, qui va l'être prochainement. Ça se traduit par une volonté de travailler sur les modes doux de déplacement, sur le covoiturage. Il y a un travail qui est fait avec la communauté d'agglomération, le département, la région, la métropole, sur le plan global de déplacement, pour arriver à faire un maillage intelligent. Je l'ai dit, on va travailler avec BRL. Donc là-dessus, les déplacements, c'est la manière de faire vivre la ville, de la faire fonctionner, avec une connotation... de fond, elle est de fond, il est en premier plan. C'est le développement durable. Ça va se traduire par des investissements au niveau de l'éclairage. On va y mettre plus de 300 000 euros avec les LED. On va travailler toujours sur le zéro phyto, travailler sur la propreté, mettre en exergue lors de la fête de la nature toutes ces pratiques vertueuses telles que l'usage du GNV, le gaz naturel vert qui est un gaz décarboné, et qui nous permettra, alors nous sommes en train de trouver l'emplacement, ça va peut-être se faire avec l'appui de la région également, peut-être que sur le site de l'aéroport, nous avons, j'ai sollicité Emmanuel Bremer, afin de faire profiter les bases logistiques de ce dispositif, avec la flotte de l'intercommunalité, de la commune, des poids lourds, pour justement arriver à rouler propre, sans polluer. Donc c'est une démarche, si vous voulez, qui rentre dans le cadre de ce développement durable, à l'image, par exemple, des normes de constructibilité, BDM, bâtiments durables méditerranéens, qui sont également subventionnés par la région. Donc nous avons, on le verra pour le port tout à l'heure, avec des mesures d'économie d'eau, des mesures d'économie sur des postes de compteurs électriques. Donc, j'allais dire, une politique qui milite pour la renaturation de la ville. Quand je dis renaturation, c'est... le travail qui accompagnera la Fondation Mobion sur cette étude agrobiologique où on veut véritablement que notre commune se différencie des travers dans lesquels tombent les communes, des fois périphériques d'une grande métropole, qui sont celles d'une cité dortoir où justement l'âme de la ville se perd par le fait qu'un urbanisme qui n'est pas suffisamment de projet n'est pas initié. C'est la raison pour laquelle vous serez associé le 19 février à une réunion d'urbanisme qui sera un deuxième temps d'échange, de confrontation, de proposition, de co-construction, pour justement imaginer un urbanisme qui est pensé en fonction justement de ces déplacements doux, en fonction de ce recul des prérogatives de la voiture dans le centre urbain, une manière, si vous voulez, de faire que le maillage également conception Fondemoglio va être celui de rencontres et d'une ville où on va essayer de faire des mixités fonctionnelles. Voilà. Donc je répète un petit peu les mêmes choses, mais c'est cela, ce schéma directeur, ce projet de ville qui se déclinera au-delà de ce mandat. En tout cas, c'est notre volonté. Ensuite, il vivra ce qui vivra. On verra qui sera pour le faire vivre. En tout cas, c'est une politique cohérente qui milite pour autre chose que ce que la réglementation nous impose. Voilà. Les pratiques vertueuses qui consisteront peut-être dans un deuxième temps à rouler grâce aux biodéchets, encouragés par l'ADEME, encouragés par la région, encouragés des fois par l'État, nous permettront de développer, j'allais dire, une politique dont, j'ai déjà parlé dans les vœux, la gouvernance, si elle sera confiée à l'équipe en place et au conseil municipal, qui est une gouvernance représentative, sera aussi matinée d'une gouvernance, d'une aide associative, participative, avec des plans, des propositions qui seront présentées au Carnonnet, qui seront présentées au Melvorien. Les choses ne seront pas imposées, parce qu'on n'a pas la science infuse, elles seront confrontées, proposées. En tout cas, l'idée, c'est d'arriver à Carnon, et ce sera l'objet de la réunion du 19 février, arriver à voir comment on peut arriver à lever la voiture du bord de mer, la replier un peu plus haut, voir comment on donne de la lisibilité à la ville, voir comment un petit peu on améliore les fonctionnalités. Voilà. Donc ce budget, on verra au fur et à mesure quels sont les items qui identifient concrètement, bon, vous le savez, les mots de douce et carrément l'avenue Jean Moulin. On va y mettre 500 000 euros cette année. On va participer à un foncé qui va coûter un million 500 pour la SPL, 500 pour la commune. On va travailler sur les aires de covoiturage. Bon, je ne vais pas vous faire une litanie. On y rentrera, si vous voulez. Madame Favier n'est pas rentrée dans le détail de ces choses-là. Mais en tout cas, vous le savez, on est toujours dans ce projet où le PPI sera au service de cette vision dans les années qui viennent, d'ici la fin de ce mandat, et plus, je l'espère. Voilà. Donc, on peut, si vous voulez, faire un point d'étape. On traitera le port ensuite, à moins que vous nous souhaitiez qu'on traite le port. Moi, je vous fais la proposition. Ça a été déjà assez long, pour pas qu'on se perde. Voilà. Merci, Caroline. Et voilà. Donc, je vous donne la parole.
Oui, peut-être.
Oui, comme vous voulez. Ouais.
Et après, on passe au port.
Oui.
Oui.
Ouais,
vas-y.
Bon,
autant de motivation. Ne croyez pas que tout le monde.
Faites comme vous avez décidé.
On a rien décidé. On est comme vous, monsieur.
On est en pleine impro. Non, mais les meilleurs acteurs, sont ceux qui savent improviser. Hein.
Ben oui.
Trop préparé, c'est pas bon.
Sur une politique, on peut peut-être. La discuter sur le fonctionnement. Et je trouve que depuis le début du mandat, on discute peu du fonctionnement, mis à part de la gestion du fonctionnement. C'est-à-dire comment on améliore nos propres tableaux de bord, ce qui est une œuvre. Hein. Je vous remercie de veiller à ce que les équilibres de la maison et l'efficience de la maison se tiennent. Il n'y a pas de... Mais ça, on l'a beaucoup discuté. Par contre, la modernité de nos politiques... et la rediscussion des affectations que nous mettons sur la table pour mener des politiques dans la part de fonctionnement, c'est quelque chose que nous avons faiblement discuté dans ce conseil municipal. J'ai eu, moi, la chance de participer à une réunion de travail avec l'adjointe aux affaires scolaires sur le point d'étape qui précédait la disparition des TAP. Donc, évidemment, on peut avoir une discussion de fond, c'est pour ou contre les TAP. Le gouvernement a créé un environnement pour laisser un faux choix, puisqu'ils sont difficiles à financer. S'il n'y a pas l'emploi aidé, on se retrouve avec quelque chose de très serré. Et le fait de dire, en fait, comme vous voulez, il y a une pression, les TAP vont disparaître. Moi, politiquement, je défends le fait qu'on n'aille pas vers la semaine à 4 jours, mais je désire pas le développer plus ce soir. Il faudra que ceux qui défendent cette vision exigeante de l'éducation des enfants reprennent ce dossier qui, a priori, a été plutôt un gros ratage. Donc il faut le reprendre aux fondations. Le fait est qu'il nous reste des marges de manœuvre. Si on ne fait plus les TAP, on a à peu près, de ce que j'ai compris, 80 000 euros de marge de manœuvre. J'ai entendu que vous annonciez le fait que vous alliez avoir des politiques que vous alliez utiliser, si j'ai bien compris, ces marges de manœuvre pour avoir des politiques nouvelles. Ça, c'est une approche qu'on a échangé là-dessus excellemment avec votre collègue adjointe aux affaires scolaires. Ça, c'est ces innovations-là, si on pouvait avoir des politiques de détection sociale, des politiques d'aide massive éducative portée par la ville pour voir où sont les difficultés, si on développait ces politiques nouvelles dans notre fonctionnement, ça serait une bonne chose. C'est un point d'appui. Je pense que, par exemple, sur nos politiques sociales, ne serait-ce que sur la détection, je pense on a déjà travaillé ensemble sur la question carnonaise, où je pense, moi, qu'il y a de nouvelles pauvretés qui apparaissent. Ces politiques de redéploiement de nos moyens pour mieux détecter les nouvelles pauvretés, c'est des politiques que j'aimerais, moi, voir plus ambitieuses, plus portées et beaucoup plus mise en avant dans nos discussions. Pareil sur les questions culturelles.
Ouais. Est-ce que je peux juste vous répondre à celle-ci dans un premier temps? Alors, moi, ma réponse, elle va être, par contre, je suis désolée, mais purement financière dans un premier temps. Je pense que la volonté de mettre l'accent sur détecter là où, effectivement, il y a des enfants qui sont en échec scolaire ou en difficulté, que ce soit financière et du coup scolaire, parce que malheureusement ça peut aller ensemble, là c'est plus le rayon de Madame Campagne et de Madame Sanchez-Bresson, mais la volonté y est, je vous suis tout à fait. Je me permets juste de vous reprendre sur la fameuse économie de 80 000 euros. Quand j'ai parlé de ce chapitre, j'ai bien dit qu'on était en train de chiffrer. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'était un transfert de charges et qu'on est en train de faire le calcul pour chiffrer ces montants. Il faut affiner. Malheureusement, ce ne sera pas du 80 000 euros net qui en ressortira d'économie, ça c'est sûr. Donc, une fois qu'on a chiffré ça, il n'y a pas de souci sur la volonté. Par contre, je trouve délicat de mettre un montant ce soir. Ce montant, c'est d'ores et déjà sûr, c'est pas le montant de l'économie qui va en ressortir. Par contre, après, l'économie qui en ressortira, l'affectation au niveau de cette volonté-là pour améliorer, alors là, c'est plus le cadre de Madame Campagne. J'en doute pas, puisqu'on en a aussi parlé ensemble, bien sûr, sur cette volonté-là.
Avant de donner la parole à l'excellente Sophie, je me permets, pas parce que je suis élu depuis 20 ans, même plus, mais parce que je partage le fond de votre
position. Vous avez commencé sur sa délégation.
Monsieur Pradeille, je partage le fond de votre préoccupation, qui est largement porté par le CCS, qui ne concerne pas que le milieu scolaire. Mais je veux dire quelque chose, au risque de choquer certains. Pour moi, on a introduit autre chose que l'enseignement avec ces TAP, et leur disparition, pour moi, c'est la restitution à l'école de ces valeurs fondamentales qui ne sont pas celles d'une aimable garderie, fût-elle animé par des gens qui font ça le mieux possible, fut-il animé par de bons motifs ludiques, pour moi ce n'est pas l'école. Et on n'a pas attendu avant qu'il y ait le TAP, vous le savez, les choix que nous avons faits à Mouguio de tout temps, au niveau de l'école, sont des choix responsables qui ne s'accommodent pas d'une variable d'ajustement, de quelques pépites, de quelques pépettes qu'on aurait économisées, sur une fausse bonne idée d'un ministre qui a été hué, et j'ai fait partie de ceux qui l'ont hué, il s'appelle Vincent Payon, dans l'amphithéâtre. C'est honteux ce qu'on a fait de l'école publique. Et souvent, Jules Ferry, le pauvre, hein, il va se retourner. Et moi, je peux vous dire qu'on n'a pas attendu d'économiser 4 sous. On verra ce qu'on économise. Pour moi, ça, ce n'est pas de l'école, c'est autre chose. Je ne discrédite pas les gens qui le font, mais ce n'est pas du tout le cadre que je me fais de l'école républicaine. Et si on doit faire de la détection, si on doit travailler pour aider les familles monoparentales, comme il en existe malheureusement beaucoup à Carnon, ce travail, oui, nous le conforterons, oui, nous le menons avec le CCAS, oui, nous le menons avec le service scolaire. Mais je ne veux pas laisser à penser que l'on puisse alimenter une lacune qui serait la nôtre, que d'avoir attendu de récupérer 4 sous pour vite, vite se dépêcher de boucher un trou quelque part. Voilà. Maintenant, Sophie, si tu veux compléter, mais comme vous avez eu ces échanges...
Oui, je suis très disponible pour qu'on continue sur cette voie-là. Juste un élément de réponse pour Madame l'adjointe. Votre prédécesseur nous avait indiqué qu'à cause des TAP, il fallait au moins augmenter les impôts de 500 000 euros. Donc si vous vous dites quand il n'y a plus les TAP, il n'y aura plus rien, on ne trouvera même pas 80 000 euros. Il y a un léger décalage dans votre communication. Donc j'espère qu'on trouvera bien 80 000 euros.
Ce que je vous disais, Monsieur Pradel, c'est que les chiffres doivent être précis et qu'on discutera qu'à partir du moment où on aura le montant précis, comme ça on saura exactement de quoi on parle. C'est ce que je vous propose.
Ce soir, on en était juste à l'intention et c'est très bien. Après, Monsieur le maire a souhaité m'amener sur une discussion de type politique nationale. Bon, je pense que, et vous le savez très bien puisque vous avez été enseignant, vous savez que c'est que la vraie question, c'était pas la question des TAP. La question, c'était la question des 5 matinées en présence pour la formation. Je ne souhaite pas autour de cette table discuter de ça. C'est un débat national. Cela dit, j'ai pris cet exemple-là pour illustrer le fait que nos politiques dans le volet fonctionnement, que ce soit par exemple les politiques sociales, elles mériteraient peut-être qu'on les modernise. C'est les solides politiques qui ont été pour la plupart forgées dans les années 90. Elles méritent peut-être d'être réanalysées et remotivées. Et ce n'est pas une histoire de 80 000 euros.
J'ai trouvé ceci sur la toile pour...
J'attire quand même votre attention, c'est que au cours de ces 5 dernières années, on a intégré une unité d'enseignement des maternelles, on a ouvert un centre d'éducation et de soins spécialisés à domicile pour les enfants atteints de troubles autistiques. On n'est pas resté sans rien faire, Monsieur Bradeil. Et ça, ce sont des publics qui sont défavorisés, que nous avons petit à petit intégrés, pour lesquels personnellement, je me suis drôlement bagarré, pas tout seul. On est toujours en conquête de ces dispositifs au niveau du collège. Je veux dire, on est dans une démarche sérieuse, soutenue. Hein, soyez-en conscients. Hein.
Moi, je ne voudrais pas discuter que des affaires scolaires. J'ai eu l'occasion de travailler sur ces... Je voudrais discuter de l'ensemble de nos politiques qui relèvent du fonctionnement, qui ne sont pas forcément simplement le fonctionnement, notre budget fonctionnement, ce n'est pas qu'un acte de meilleure gestion, même si vous faites tous les efforts pour que ce soit un acte de meilleure gestion et personne ne peut vous le reprocher.
Il y a la dématérialisation, par exemple, qui entre dedans. C'est un gros travail qui est effectué en ce moment sur toute l'administration, enfin, pour parler que de ça. Je trouve que ça montre aussi une volonté dans le fonctionnement, vous avez raison, c'est-à-dire pas que les chiffres, hein, pas que la gestion. La dématérialisation est un exemple de volonté d'améliorer nos fonctionnements différemment que par du budget pur. La gestion du personnel aussi, enfin, par la gestion du temps de travail.
Alors, si je vais prendre un autre exemple pour discuter du fonctionnement, sur le fait qu'on peut revisiter nos politiques de fonctionnement. Si on prend l'Office du tourisme, et j'ai été amené, moi, à voir les retours des enquêtes de satisfaction, surtout les items, excellent, très bien, excellent, très bien, excellent, très bien, excellent, très bien. Sur un, bien, ou assez bien. C'est sur les animations. Donc ça veut dire qu'on injecte de l'argent et on décide d'injecter, on peut considérer qu'on complète, mais on n'élève jamais le budget de l'Office du tourisme. Et sur cette question des animations, on peut tout à fait avoir une discussion sur est-ce que ça t'a satisfait les touristes qui viennent, est-ce que ça a satisfait les habitants, comment on la met, quels sont les moyens. Et jusqu'où on va? Je pense que ça, dans le fonctionnement, c'est pas du tout de la gestion, ce n'est que de la politique. C'est est-ce qu'on investit davantage pour développer ou est-ce qu'on reste en arrière de la même pour rester très calme sur Cardon? Ça nécessite une discussion de type politique.
Je suis sûr que vous avez écouté tout à l'heure ce que j'ai dit. Je vous ai dit que l'OT, on le présente, on attend le résultat de l'étude qui va nous être livrée, mais c'est pas elle qui va nous dire la virgule ce que nous devons faire. Mais l'OT elle désormais se charge de la promotion du territoire au sens large du terme. On arrête de le considérer, peut-être que certains le considèrent comme un aimable animateur d'après-midi récréative. Non, on veut en faire vraiment une force proposition sur le patrimoine. Il va travailler avec la culture, il va travailler au service du territoire avec la communication. Alors, sachez quand même que les sondages sont représentatifs de certaines tendances, et qu'en règle générale, les gens sont plutôt satisfaits. Vous en avez cité un parmi Mme Gély pour répondre mieux que moi. Le dépouillement des gens qui ont répondu, c'était plutôt ceux qui étaient contents que ceux qui n'étaient pas contents. Je me trompe? Voilà.
Mais c'est vrai aussi que l'animation, c'est le point sur lequel il y a le plus de discussions, effectivement.
Et ça, c'est un acte de tableau de bord. Ça ne relève pas de ce que vous pourriez, vous, Madame l'adjointe aux affaires financières, améliorer. Oui. C'est bien une discussion de type politique.
On est d'accord.
Donc c'est ça.
À part animer moi-même, mais je ne suis pas sûre d'avoir les compétences. Je préfère rester sur mon tableau.
Donc ça mérite savoir si il est opportun ou pas d'augmenter le budget. D'augmenter le budget de l'Office du tourisme sur la question des animations, c'est une question qui pourrait être débattue. Donc j'ai pris ces exemples-là par rapport à nos...
Oui, mais c'est tout le sens du schéma directeur et des études qui ont eu lieu. Hein. Bon.
Ouais. Donc ça, c'est... Voilà
l'autre aspect du
là-dessus, on ne s'oppose absolument pas. On est dans une approche dont les tendances ont déjà été données. Oui.
Bon, moi, si vous voulez, comme ça fait deux années... Vous m'aviez invité l'année dernière ou l'année d'avant? Ça fait deux... Oui, ça fait deux années que je vois le duplicata de l'enquête. Les remontées sont les mêmes. Et je vois les budgets qui sont stabilisés.
On est en train de vous dire qu'on est en train de changer, justement. On a fait faire cette étude parce qu'il y a la volonté d'évoluer et d'être sans y compris dans les aliments.
Non, mais là, on fait le tour de chauffe. Quand on sera au budget, je verrai le changement, je verrai la hauteur du changement qui sera commué à un chiffre. C'est un budget, c'est aussi des montants d'engagement. Et la question de savoir si on fait des animations à Cardon, c'est une question d'investissement.
On est d'accord. Voyez-le aussi que dans une programmation budgétaire, ne le voyez pas sur une année N. Parce que le schéma directeur cette année, je le dis, va nourrir des intentions, plus d'intentions d'études de concertation que de réalisation effective. Du jour au lendemain, on ne change pas sans avoir concerté les gens, des centres de circulation, des stationnements. On ne dit pas je raménage l'espace public, ça je fais, ça je le mets de côté, ça c'est comme ça, sans consulter les riverains, sans avoir l'intelligence de voir quelle est la vision touristique, puisqu'on parle de canaux que l'on veut déployer. Donc là-dessus, quand même, je vous le dis, nous avons inscrit des sommes, et je vous attends dans quelques mois. Vous allez dire, monsieur le maire, vous avez inscrit là, 5 millions d'emprunts. Et moi, je vous dis que peut-être on ne va pas mobiliser, mais c'est même certain, enfin, je ne sais pas, mais on ne va pas forcément mobiliser la hauteur des emprunts qui ont été cités par Mme Favier, mais nous sommes obligés de les inscrire parce que ce sont des intentions et que si d'aventure on arrive à progresser suffisamment, il faut quand même que les crédits en fassent des opérations. C'est la raison pour laquelle on essaie d'alimenter la sincérité du budget comme on le fait pour l'île au Prévert, où là, cette année, on va mettre les 3,3 millions qui restent comme crédit pour justement montrer que ça va être effectif. Et on va le faire sur d'autres réalisations. En fait, c'est la sincérité budgétaire. Parce que à quoi bon trimballer des sommes qu'on ne va pas forcément utiliser. Mais c'est vrai que les études prennent beaucoup de temps. Je l'ai dit, et c'est une, vous le savez aussi. Et puis, des fois, il faut prendre le temps de la discussion avant de prendre le temps de la décision. Voilà.
Je ne veux pas rester trop longtemps sur les questions de fonctionnement, mais je vais donner une... On n'est pas que dans une logique comptable. On est aussi dans une logique de modernisation de nos politiques. Sur la question des investissements et des effets ciseaux. Je voudrais attirer votre attention. Bon, d'abord, votre courbe sur les effets ciseaux, le document que j'ai vu, j'ai vu des inflexions de courbe que je ne me suis pas expliqué en termes de pure géométrie. Vous me direz en aparté comment vous avez construit cette courbe-là. Je voudrais attirer l'attention sur un autre effet ciseau. Et je voudrais vous raconter l'histoire un peu différemment. Vous comparez souvent Moggio, vous comparez Moggio aux villes de la même strate. Je voudrais, moi, ce soir, vous faire comparer Moggio, la ville de Moggio-Guernon, à elle-même. C'est-à-dire à nos politiques, mais avant que vous ayez à connaître les affaires. Si là vous êtes à 10 millions de dettes, et vous allez nous faire remonter à 15 si je comprends bien.
Ouais, sauf que d'ici là il y en aura d'autres qui auront été éteintes, voire remboursées.
J'ai bien compris que vous étiez dans une, que vous le faisiez maintenant parce que vous étiez dans une fenêtre de remboursement qui vous permettait de recharger. Heureusement que vous le faites comme ça. Parce que la réduction de notre capacité d'autofinancement, qui est l'arbitre des élégances, hein, puisque vous nous avez parlé de l'autre critère.
La règle d'or et l'encadrement de l'évolution des dépenses de fonctionnement.
Donc là, vous avez parlé d'épargne brute, mais c'est la capacité d'autofinancement qui est la norme communément admise. Notre capacité d'autofinancement, elle n'est pas... si vous prenez, moi, je prends 2016, on est à 4 346. J'ai pris 2006, qui est l'année où le dernier budget d'Yvon Pradeigne, on était à 6 millions 8, en capacité d'autofinancement. Donc c'est ça qui donne la santé. Et on était en 2000, donc c'est... sous un mandat bacala, on était à 4,5 millions. Donc on était dans un chiffre équivalent. Donc vous voyez que sous les municipalités d'Yvon Pradeigne, on était dans des ratios qui étaient meilleurs, avec une gestion extraordinairement boulonnée. Hein. Mais on était dans des ratios meilleurs.
Mais on avait des recettes qui étaient nettement meilleures. Elles n'étaient pas excellentes, elles étaient exceptionnelles par rapport à ce que l'on a aujourd'hui.
Et moi, je veux bien qu'on le discute. Oui. Non, mais moi, je veux bien ça.
La dotation de la
ça, moi, monsieur le maire, je veux bien.
Ce que vous auriez dû prendre, toute chose est égale par ailleurs, c'est la proportionnalité du ratio, la capacité de désendettement en 2000 et en 2006. C'est ce qu'il faut regarder. Le reste, ce sont... C'est bien tenté, c'est ça qui est important.
Si vous permettez,
je permets.
Monsieur le maire, je vais développer jusqu'au bout. En 2016, si on prend le réalisé, on est à peu près en investissement, on est à peu près à 4 millions. Le réalisé. Si vous prenez le total des ressources d'investissement en 2000, donc dernière année bacala, on est à 9,7 millions.
Non mais là,
Si vous prenez 2006, donc l'année avant que vous preniez les affaires, monsieur le maire, dernière année du mandat d'Yvan Pradel, on est à 11 millions. Donc on est d'investissement. Donc si vous comparez le réalisé, on est à 4 aujourd'hui, alors qu'à l'époque on était à 11.
Oui.
Alors, moi je veux bien qu'on nous explique l'air littoral, mais sauf que ça décrit quoi? Ça décrit un effet ciseau. Ça décrit une commune qui n'a pas budgétairement se redévelopper après avoir pris le choc d'air littoral. Donc discutons-le. Ça, c'est un effet ciseau. Ça décrit une commune quand on additionne tous les concours. Par exemple, quand je vous décrivais, madame, que le fait que les concours extérieurs des autres des financements croisés étaient très faibles, c'est de ça dont je parlais, 11 millions, imaginez. Aujourd'hui, on est à 4 millions d'investissements réalisés. Donc ça décrit une commune qui s'isole et qui n'est plus capable. Il y a eu des transferts de compétences à l'agglomération, mais l'agglo ne vient plus au concours de la ville. Donc ça décrit une ville qui est en capacité, qui a une capacité moindre d'investissement, 4-11, et qui n'investissant moins, forcément est moins équipée, forcément se retrouve avec son propre effet ciseau, et je vais vous le décrire.
Juste pour remettre les chiffres, où est-ce que vous voyez 4 millions d'investissements quand on est sur des montants d'investissement annuels plutôt autour des 12 ou 13?
Vous savez que dans vos affichages, si on prend le PPI,
oui,
on arrive à des choses extraordinaires.
Avant, vous parlez du réalisé.
Je parle du réalisé. D'accord. Parce que ça c'est une réalité. D'accord. Le réalisé.
Et si on prend, des reports, alors,
et si on prend, et si on prend, mandat. Non mais on peut, si vous voulez, on peut rajouter le fonds de roulement. Non. C'est comme ça que c'est non, on est à 5 millions.
Rajoutons les reports parce que notre
investissement. N'allons pas dans le.
Dans le réalisé.
C'est un commentaire, c'est une thèse qu'il faut faire.
Non mais dans le réalisé. Non mais moi je veux bien que je veux bien que ce soit. Mais c'est des chiffres qui sont visibles. Hein, je peux les communiquer à qui les demande. Et ils sont visibles sur
vous
les...
Vous ne pouvez pas prendre des chiffres comme ça. Vous parlez d'une époque où il y a des dotations d'État qui sont à plus de 2 millions.
C'est vrai que c'est surprenant comme
ça. Venons-en quand même à ce qui nous préoccupe aujourd'hui et pas un coup de rétroviseur d'analyse les 15 ans qui de s'écouler. Sinon, on est cuit, là, on y est jusqu'à demain.
Je décris l'effet ciseau. Je vous donne un exemple pour avoir une ville comparable à la nôtre, la ville de Latte. Aujourd'hui, vous vouliez faire la pointe de Montgueux, vous vouliez la faire sur 30 hectares. Vous êtes retrouvé avec un DPRI qui vous l'a réduite de moitié. Pendant la même période, le maire de Latte, lui, a endigué sa ville, a investi et a protégé sa ville. Chose que nous n'avons pas faite.
Allez habiter à Latte. Si vous avez peur de vous mouiller.
Monsieur le maire, c'est votre argument ultime quand je vous dis que le job sur les inondations n'a pas été fait et que ça cause aujourd'hui un de nos problèmes. Donc nos investissements ont été trop faibles pendant des années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas à 500 000 ou 1 million. Aujourd'hui, notre capacité d'investissement est réduite de moitié par rapport à ce que nous étions capables de faire avant. Je pourrais vous le décrire pareil de manière économique. On n'a pas investi comme on devait. Je vous prends l'exemple, par exemple, de la construction de logements. Les prédécesseurs, quand ils accéléraient, ce sont des choses qui se sont arrêtées. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on a une capacité de marge de manœuvre qui s'est réduite qui est due à notre bilan.
Là, je dis non. À cette remarque-là, je vous dis non. Sinon, si j'affichais que la moitié des investissements que vous réalisiez avant sous d'autres... Enfin, d'autres maires réalisent avant sous d'autres mandats, je ne pourrais pas avoir ces chiffres-là et ces ratios-là. Je ne pourrais pas afficher 13 millions d'investissements en 2018 parce que mes ratios ne seraient pas bons. Or, je viens de vous montrer que les ratios sont bons. Donc, vous parlez d'histoire de report, et ces reports, c'est parce qu'il y a d'autres impératifs qui se sont mis et des délais, vous les connaissez très bien, mais vous ne pouvez pas dire, je ne peux pas vous laisser dire ici que notre capacité d'investissement est réduite de moitié
par rapport aux années antérieures, ce n'est pas vrai.
Monsieur le Président, je vous ai fait part de vos
observations. Dernière, vous ne pouvez emprunter que cette année, parce que notre capacité d'autofinancement ne permet pas de le faire avant.
Voilà, allez, on a rien compris à ce que vous avez dit.
Oui.
Non, vous êtes allé chercher midi à 14h, plutôt que les chiffres qu'on vous propose aujourd'hui. Allez, qui veut intervenir encore? Monsieur Bourguet, allez-y.
Oui. Mais je voudrais déjà intervenir sur le schéma directeur, mais non. On reviendra après sur les investissements en détail, mais comme vous avez introduit sur le schéma directeur, moi c'est ce qui m'inquiète le plus dans cette affaire. Là on est parti, j'ai vu un budget de presque 500 000 euros pour financer cette étude. C'est une étude qui dure depuis un an, qui va durer encore un an je crois. Et je trouve que là, on marche un petit peu à l'envers. On marche à l'envers parce que Mouguio, Carnot, vous l'avez dit justement, a besoin d'un vrai projet de ville aujourd'hui. On a besoin d'une vraie vision parce qu'on voit des permis de construire qui se montent de partout. On ne sait pas où on veut aller. Tout à l'heure, on a parlé des logements sociaux, la loi SRU. Bon, on a un sursis jusqu'en 2020, mais en 2020... Qu'est-ce qu'on aura fait à la fond de Mouguio? Moins de 20% de logements sociaux, donc on aura aggravé
si le... Si vous m'aidez, on ira plus vite, monsieur.
On aura aggravé le quota. Mais ce que je veux dire, c'est que pour rattraper le retard, ce n'est pas des nouvelles constructions qu'il faut faire, c'est de la conversion. C'est ça, un projet de ville.
Monsieur,
il n'y a pas de conversion dans vos projets.
Monsieur Bourguet, donc, quand vous serez passé par la commission du 19 février, vous comprendrez que le schéma directeur a identifié des zones de densification dans le centre-ville, la ville sur la ville, et que l'État... Lui ne nous laissera jamais nous étendre si, dans le même temps, en préalable, on n'a pas travaillé sur l'optimisation des lieux de vie en faisant bien attention à la loi Allure, parce que n'importe qui aujourd'hui peut acheter n'importe quoi, n'importe quel prix, et vous mettre un gratte-ciel. Enfin, j'exagère. Donc ça c'est vu, M. Bourguet.
C'est ça que je veux dire.
C'est déjà vu. Et le schéma directeur, justement, c'est que vous ne l'avez pas encore bien assimilé, le schéma directeur identifie... comme sur la route de Montpellier, des zones où il y a des polarités, Blachère, j'ai des endroits comme ça, où le creux de la masque, où on a des possibilités d'intensification. Par contre, s'il y a d'autres endroits qui ne se prêtent pas, parce que ça va compliquer la vie et le voisinage, à cet endroit-là, le document d'urbanisme auquel vous serez associé décrira une impossibilité de densifier. On va donc optimiser les endroits où ça va pouvoir se faire naturellement et interdire les autres.
Moi je suis d'accord, il faut un schéma directeur. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce schéma directeur il se fasse à huis clos. On va arriver au bout de 2 ans ou 3 ans, on aura investi 500 000 euros, il faudra tout refaire parce que les gens ne seront pas d'accord pour ça.
Il ne se fera pas à huis clos, je l'ai dit.
C'est ça que je reproche à ce schéma directeur.
On n'a pas commencé, monsieur Bourguet, écoutez-moi bien, on n'a pas commencé à travailler sur le cahier
on a commencé.
Attendez, laissez-moi finir la phrase. On n'a pas commencé à travailler sur le cahier des charges du schéma du plan local d'urbanisme. C'est la raison pour laquelle la réunion qui va se tenir prochainement, l'initiative de M. Cassard, va travailler sur les éléments. Nous, on va vous dire comment, au moins, la ville, et vous ne ferez pas, vous, de vos critères de densification. On verra, on croisera avec l'État, ce que proposera le cabinet, le ressenti des gens, et on décidera. Voilà comment on va travailler.
Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas en même temps. Pourquoi on n'avance pas en même temps que les bureaux d'études, la population, en même temps que les bureaux d'études. C'est ça que je comprends.
Le bureau d'études aujourd'hui, monsieur Bourguet, n'a pas... Aujourd'hui, la seule chose qui a été faite et qui est, dont on a eu le résultat, c'est l'étude de stationnement et circulation à Carnon. Il manque l'étude de tourisme. On est en train de lancer une étude de stationnement et circulation à Mouguio au titre de la révision du PLU. Mais pour le moment, il n'y a aucune préconisation, il n'y a aucun document. Le cahier des charges est en cours de réalisation, il est confié, il y a un mandat qui est confié à la SEPL pour travailler pour le compte de la commune. Vous serez associé. Le groupe majoritaire n'a rien décidé là-dessus. Je vous le dis franchement. Voilà.
D'accord.
C'est que ça prend du temps. Je l'ai dit tout à l'heure à M. Pradé. Et cette année, on ne va pas forcément réaliser beaucoup de choses. On est dans les intentions et dans le temps qu'il faut. Il faut donner du temps.
Vous avez compris.
Je ne veux pas qu'on gaspille
de l'argent pour des études qui ne serviront à rien. Parce qu'après, il y aura des oppositions, il y aura des...
Ah non, mais l'opposition, elle est normale.
C'est
un phénomène naturel.
Oui.
Voilà. Bon, ça sera la démocratie et on décidera. C'est pas parce qu'il y en a deux qui ne sont pas d'accord que les militants qui vont s'en passer quand même.
Bien sûr.
Hein?
Quand même. Ce que je veux dire,
on en discutera. Vous avez participé à des ateliers.
Oui.
Vous avez fait entendre certaines
bien
choses.
Sûr. Et bien voilà. Mais je pense que le schéma directeur, il doit être mené. Bon, on verra comment vous allez fonctionner.
L'intention y est, monsieur, voilà. Et la réalisation y sera aussi.
Après, j'avais deux, trois petites questions techniques pour madame Favier. Donc, vous dites que le gouvernement nous demande de ne pas dépasser 1,2% de croissance dans le budget de fonctionnement.
Ouais.
Et vous avez prévu 2,67, 2,83, 3,36. Est-ce que ça ne va pas être pénalisé, justement? Est-ce qu'on ne va pas avoir des retours de bâton, une incidence sur les dotations, des choses
vous
comme ça?
Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est-à-dire que pour cette année, on est à 2,67 après une grosse revue du budget de fonctionnement par rapport aux propositions qui avaient été faites dans un premier temps. Donc tout le monde a joué le jeu, chaque adjoint et chaque service derrière, pour revoir les propositions et diminuer chacun ses demandes. Pour l'instant, c'est une intention, c'est une volonté. C'est-à-dire qu'on ne fait pas partie des 340 plus grandes communes qui ont l'obligation de le réaliser dès 2018. Par contre, il nous est fortement conseillé d'aller vers. Donc, cette année, on a laissé les 2,67 en considérant qu'on a eu beaucoup, comme vous l'avez vu, d'obligations, hein, les 90 000 euros d'obligations, voilà, pour le service incendie. Il y a eu des tas de dépenses qui se sont rajoutées incompressibles. Donc, on a toléré plus de 2,67 sur l'augmentation des dépenses de fonctionnement sur 2018. Par contre, vous avez pleinement raison pour l'année prochaine, c'est-à-dire que tous les adjoints ici le savent déjà, il va falloir qu'on diminue le budget de fonctionnement.
On a par exemple 120 000 euros supplémentaires sur les garanties exigées par les assurances, sur les grands travaux qu'on va faire sur l'îlot Prévert, sur la capitainerie, sur le château de Contemelgué.
L'assurance dommage.
Voilà.
Après, moi c'était surtout...
Dommage ouvrage.
Après, sur le taux de... Les taux d'intérêt, c'est pareil. Je vois qu'on veut baisser les taux d'intérêt de 3,9 à 2,9. Et on dit qu'on sera... ça manque d'ambition par rapport à la moyenne nationale. Alors, je ne sais pas s'il y a des négociations de prêts ou...
Oui, il y a des négociations de prêts. Il nous reste 3 gros prêts où on attend le retour de la banque. Et les taux estimés, non, c'est ce qui se fait par rapport... Alors, vous savez, tout dépend la durée de votre prêt. Tout ce qui reste, ce qu'on appelle la DRAC, c'est-à-dire la durée restante de remboursement. Et ça, malheureusement, on est dans un échange de négociations. Si bien que quand le taux va rester encore trop élevé à notre goût, on fera le choix, à ce moment-là, de rembourser le prêt et de repartir sur le nouveau, puisque de toute façon, il va falloir qu'on emprunte par rapport au schéma directeur. Donc à ce moment-là, on préférera, si on n'obtient pas gain de cause sur la négociation, le réaménagement de prêt, on remboursera les prêts en cours avec le taux trop élevé, et on partira sur le nouveau avec le nouveau projet du schéma directeur.
Okay. Après, il y avait un truc, bon, un peu plus, un choix un peu plus politique, c'était... l'histoire de la réduction des heures supplémentaires. J'ai vu que ça représentait 50 000 euros sur une masse salariale de 13 millions. Donc je trouve que c'est assez ridicule par rapport à l'impact négatif que ça a sur la vie de la commune. Je m'explique, la réduction des heures supplémentaires, par exemple, nous les associations, nous a réduit l'accès aux salles. On parle de revoir encore les critères d'attribution et dans les causes on nous dit parce que ça fait faire trop d'heures supplémentaires aux employés. Donc voilà, ça c'est un choix que moi je n'aurais pas fait, de réduire les heures supplémentaires pour le petit gain que ça représente. Je trouve que c'est un choix politique, mais là c'est un choix politique.
C'est une maîtrise de gestion, M. Bruguet. La disponibilité de la commune envers les associations est dictée parfois par du bon sens. Quand on dit qu'on aménage une salle à l'îlot Prévert, pour éviter de mettre dans une salle qui a une jauge de 313 places, 50 personnes, ou même moins, ou 100 personnes, c'est un principe de bonne gestion. au lieu de mobiliser deux techniciens et de chauffer beaucoup de volume, on essaie de faire quelque chose qui est plus adapté.
Mais pour le moment, on n'a pas encore la salle.
En termes, non, mais de toute façon, mais pour le moment, vous arrivez à supprimer du tout, monsieur Bourguet.
Non,
on est d'accord. Et on arrive. On arrive à supprimer à personne. Les heures supplémentaires sont souvent induites par. Alors, on a des fois des intempéries, des événements qui ne sont pas prévus. Le principe de la sincérité budgétaire, c'est d'adapter le service en fonction du nombre de personnes. Nous, on ne peut pas faire travailler la police dans des conditions qui ne sont pas acceptables, où le code du travail nous empêche de les faire travailler en continu plus de 6 heures ou 7 heures, ainsi de suite. Donc, on prévoit des effectifs adaptés, et quand on arrive à faire travailler les gens avec un horaire normal et pour remplir leur mission, c'est qu'on a fait de bonnes prévisions. C'est pas un cadeau que l'on donne à des gens en disant mais écoutez, on a beaucoup d'heures supplémentaires, il y avait 25 000 euros qui traînent, on va les distribuer. C'est pas comme ça que ça se passe.
Ah non.
Quand même. Et puis j'attire votre attention aussi tout à l'heure en vous disant que l'annualisation du temps de travail, le fait qu'on soit arrivé à faire les 1607 heures, eh bien, ça, c'est comme si on avait créé 14 postes sur l'ensemble des 350 collaborateurs. Ça veut dire quand même qu'à un moment donné, ça doit s'y connaître. Si vous avez quelques personnes en plus qui vous aident à travailler quelque part, il faut que, en admettant que la théorie soit une chose, que la pratique en soit une autre, il faut à un moment donné que ça s'y connaisse. Voilà. Donc, les heures supplémentaires, ce n'est pas le fait du prince, ce n'est pas pour faire le plaisir ou pas faire le plaisir. C'est qu'on essaie justement d'adapter le temps de travail aux missions qui sont confiées à nos collaborateurs. Et quelqu'un qui travaille en plus, ou qui travaille de nuit, ou qui travaille, qui ne peut pas prendre ses congés, eh bien, le CHSCT ou les comités techniques paritaires ne manquent pas de pointer, justement, l'obligation pour l'employeur de mettre le travailleur dans les conditions de sécurité, de travail, ainsi de suite. C'est un devoir. C'est pas le plaisir qu'on a à donner ou à pas donner. Et en plus, ça participe à la rigueur budgétaire. Il n'est pas normal que... Enfin, je ne sais pas, moi, si quelqu'un a un salaire qui est multiplié par deux parce qu'il fait des heures supplémentaires, à moins que ce soit une saison, et qu'en 6 mois ou en 3 mois, il gagne ce que d'autres gagnent en 1 an, ça n'est pas acceptable. En tant qu'employeur, nous, on ne peut pas le faire.
Oui, mais ce n'est pas la question de multiplier par deux. C'est parce que j'ai vu que la réduction des heures supplémentaires, c'était une très petite économie au regard de la masse salariale. Je trouve que l'impact il est quand même négatif sur la politique d'animation de la ville en général.
Voilà, ça c'est votre appréciation.
Oui, c'est mon appréciation.
On n'a jamais laissé un moment festif sans police, sans technique, sans service, sans SLE. Et souvent, les gens, les associations nous remercient parce que le technicien a fait son boulot, la salle était chauffée, elle était ouverte, elle était fermée, elle était propre.
Le personnel travaille bien, j'ai pas critiqué.
Ne dites pas qu'on fait des économies au détriment des associations.
J'ai pas critiqué.
Ça, c'est votre opinion, mais moi je ne peux pas vous laisser dire cela, monsieur Bourguet. Je vous dis avec le sourire, mais avec détermination. D'autres interventions? Monsieur Capelletti? Bonsoir.
Alors. Feu le grand chef Paul Bocuse, que j'ai bien connu quand j'étais à Lyon, au travers des missions de conseil en gestion pour ces 4 restaurants, disait « C'est lorsqu'on croit avoir réussi que commence l'échec. » Donc je dis pas ça pour parce que vous pensez avoir réussi.
On s'interroge quand même.
Je dis ça pour avec modestie.
C'est une mise à bouche
voilà,
qui nous interpelle.
On m'a toujours dit qu'il faut préparer l'entrée et il faut pas rater sa sortie. Voilà. Et au milieu, tu fais un tunnel. Voilà, comme tout le monde dort. Et donc, avec modestie, donc, dire que bon, bah, globalement, on sent dans la présentation de ce OB, ce qui est vrai, une maîtrise de tout ce qui concerne la sécurité financière. Il n'y a rien à dire, de toute façon, bon, les indicateurs globalement sont bons, hein, il faut le dire, voilà, bravo. Avec notamment un travail fait pour ramener les collaborateurs municipaux à 35 heures, ce qui est ce que je salue, hein, puisque vous le savez, les études de la Cour des comptes montrent que 80% des collectivités territoriales sont encore très loin de ce résultat. Alors néanmoins, y a deux angles sur lesquels, en fait, on peut faire mieux, et sur lesquels, effectivement, il y a des potentialités à exploiter qui ne sont pas encore, qui le seront peut-être, et sur lesquels, en fait, il faut travailler. Donc un peu de timidité de mon point de vue sur ces, de prudence en fait sur ces deux points-là que je vais me permettre de vous exposer rapidement en 5 minutes. Bon, tout ce que je vais vous exposer, j'ai déjà l'occasion d'en discuter, de l'écrire hein, dans les Échos, Midi Libre, ou de communiquer sur l'invitation d'associations de maires.
On peut faire plus simple en direct aussi. Hein, on peut...
Bah non, je vous l'ai déjà dit en direct. Hein. Alors, le premier point, c'est plutôt un point sur la vision. Donc, c'est pas un point tellement financier, c'est effectivement un point sur la vision. C'est-à-dire que je trouve qu'on est, on est un peu timide sur Moguio-Carnon, c'est pas une île déserte. C'est-à-dire que à 5 ans, 10 ans, tout ce qu'on prévoit en termes de projets, etc. D'autant plus qu'on est dans un département le plus attractif de France avec la Gironde, donc sauf à mettre des murs autour de la ville, ce que personne ne souhaite. Évidemment, on est plutôt parti pour un accroissement de population. Ça va dépendre beaucoup de l'ensemble dans lequel nous allons être. Bon, bah, je vais donner mon avis, c'est-à-dire que ça ne représente que moi, c'est-à-dire que évidemment, notre avenir est différent si nous restons dans une agglomération racornie telle qu'aujourd'hui, ou si on intègre en fait une métropole plus ambitieuse. Hein. C'est-à-dire que toute notre vision dépend énormément de ça. Attirer l'économie, développer le tourisme, c'est pas la même chose si on fait ça en restant dans une petite agglomération qui a pu justifier, ou en intégrant un ensemble plus ambitieux. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, je souhaiterais en fait d'aller au bout en fait de la vision, y compris sur ce plan-là. Le deuxième point, c'est, vous l'évoquez, vous dites, mais c'est un peu timide, c'est-à-dire que, en fait, en gros, quand le gouvernement dit pas d'évolution des dépenses de fonctionnement, et vous avez raison, bon, j'étais à une réunion, je vous félicite, vous avez résumé, mais vraiment de façon remarquable. Ce qui vraiment met beaucoup de temps à être compris, quoi. Donc ça, c'est l'évolution de la taxe d'habitation, les réglementations qui vont. Donc un gros travail pédagogique. Mais si on le résume, en fait, diminution de l'endettement, pas d'évolution de dépenses de fonctionnement, ça veut dire quoi? Si on veut continuer à maintenir une qualité de service public, ça veut dire qu'il va falloir augmenter la productivité publique.
On est d'accord.
Voilà. J'emploie le mot, donc.
Oui.
Augmenter la productivité publique.
Oui.
Et sur ce plan-là, je pense qu'il faudrait... il faudrait un plan, en fait. Il faudrait que vous annonciez votre plan d'augmentation de la productivité publique, que je soutiendrai. Alors, bien sûr, une productivité publique socialement responsable, acceptée par les agents municipaux et au service du citoyen. Et vous avez déjà commencé, donc, sur... Quand vous augmentez le temps de travail des agents pour leur faire atteindre la norme légale, en négociation, c'est ce que vous avez commencé à faire. Alors ça, d'ailleurs, quand on chiffre, c'est un équivalent de 13 équivalents temps plein, c'est ça? 14 équivalents temps plein chargés, ça fait 400 000 euros par an. C'est ça, en gros? 400 000 euros par an.
À peu près.
Voilà. Hein, je fais... Alors, en création de valeur publique, ça fait plus. Mais bon, je prends les salaires. La question qu'on pourrait demander, c'est, ils vont aller où, ces 400 000 euros? On parlait de 80 000 euros, on n'est pas sûr, etc. Là, on est sûr des 400 000 euros. Qu'est-ce qu'on va en faire, vous voyez?
Oui.
Eh oui.
Du social.
Alors, d'autant... Bah, moi, je serais partisan, mais là, on peut en discuter. Hein, est-ce que c'est accroître les services publics, diminuer les impôts, ou un peu des deux? Bon, vous connaissez ma position.
Ou accroître le service public.
Voilà. Accroître le service public.
Oui, parce que... Pourquoi? Parce que, bon, là, c'est... Bon, peut-être qu'on va, on va s'engueuler, mais tant pis. C'est-à-dire que si je caricature, je caricature. Mais en fait, les impôts depuis 2014, en tout, ils ont augmenté d'1,4 million. En valeur absolue. J'ai noté, hein, donc de 21,8 à 23,2. Ça fait 1,4 million. C'est-à-dire ils ont augmenté autant que l'effort de baisse de dotation qui ont été demandés.
Détaillez-moi les impôts, ce que vous appelez les impôts qui ont augmenté.
Bah, c'est la ligne, non, mais c'est dans ce que vous avez montré.
Vous voulez dire, c'est l'augmentation.
C'est la ligne impôts et taxes.
L'augmentation des bases. Attendez, à quelle page on est?
Bah, 21,8 à 23,2. Donc, là-dedans, il y a l'augmentation que vous avez décidée en 2014, et puis les augmentations nationales,
voilà,
etc.
Ça veut dire que la totalité de l'augmentation ne nous revient pas, on est bien d'accord. Notre partie à nous...
En termes de décision, mais en termes de rentrée, si. L'ensemble vous revient. Bah, non, mais c'est la ligne, c'est tout simplement, j'ai repris la ligne impôts et taxes. Non, mais c'est pas grave, hein, ce que je dis. Hein. Donc, les impôts sont passés de 23,2 millions de 21,8 millions à 23,2 millions. Ce qui fait plus 1,4 million depuis 2014.
Oui, mais pour autant, vous avez bien compris que ce n'était pas des bénéfices.
Non,
hein,
vous avez... non, bien sûr.
Le GVT, entre-temps, est passé par là.
Alors justement, moins 1,4 million de baisse de dotation diverses publiques. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, l'effort de productivité publique... Et les premiers résultats, vous allez les percevoir en 2008 avec l'augmentation du temps de travail, qui a été juste finalisé en novembre, il n'est pas encore fait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, finalement, en gros, oui, je sais très bien que ce n'est pas tout à fait vrai, mais en gros, la baisse de dotation, vous avez pu l'absorber, finalement, par l'augmentation, dont une partie que vous n'avez pas voulu, on est d'accord, mais par l'augmentation des impôts. Alors, dans ce plan de productivité publique, je pense, où il faudrait être plus vendeur, en fait, hein, parce que c'est un beau mot, je trouve. Donc, l'augmentation du temps de travail, ben, ça s'est fait. Il y a effectivement tout un travail sur la motivation des agents, hein, que vous allez initier. Bon, il y a tout ce qui concerne, vous savez, est-ce qu'il y a de l'absentéisme, des maladies professionnelles, etc.
On est plutôt bon là-dessus.
Il y a des risques psychosociaux. Oui. Alors justement,
on est plutôt bon là-dessus, mais si vous regardez, M. Capelli, si vous regardez les effectifs, justement, on était à 321 en 2014, en 2017, on est à 310. C'est-à-dire que pour des tâches plus importantes, on a réduit les effectifs sans pour autant externaliser l'équivalent des gens qu'on n'a pas forcément renouvelés. Et croyez bien, tout à l'heure, quand j'ai tenu comme propos que si on est quelques-uns de plus dans le jardin, j'ai dit ça, M. Bourguet, il faut que ça s'y connaisse. Alors, vous l'avez dit en des termes plus financiers, plus choisis, effectivement, la productivité n'est pas un gros mot. Il faut que nos agents, nos collaborateurs, se montrent, plus optimisent le temps de travail, optimisent les ressources, dans le respect, justement, sans leur faire des heures supplémentaires, dans le temps de travail qui est imparti, qui est plus long que celui dont il faisait preuve jusqu'à présent, dont la productivité devrait se retrouver au cours de l'année 2018.
Exactement.
Moi, ça ne me fâche pas. Ça me va très bien, M. Capelletti.
Voilà. Alors, justement, comme on est d'accord, c'est simplement...
Mais qui ça peut fâcher que de dire que la productivité doit être une recherche? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut fouetter les gens. C'est pas ça du tout. Mais il faut les mettre dans des conditions où leur travail... C'est la formation que nous faisons, le plan de formation, mettre chacun à sa place. C'est ce que nous faisons avec la mobilité interne en essayant des réaffectations où il y a des personnels qui, des fois, échouent dans un métier et réussissent mieux dans un autre. C'est pas que de la théorie. Ça arrive. Heureusement. Donc, on travaille là-dedans. Il y a un gros travail qui est fait. Laurent Tricor n'a encore rien dit. Mais il pourrait vous dire qu'avec Mme Vernet et tout le service, et puis il n'y a pas que deux. C'est une volonté que nous avons d'essayer de mettre, tout à l'heure, j'ai parlé des risques psychosociaux, on a parlé aussi du projet d'administration. Le projet d'administration et sa vertu, il faut qu'il débouche sur quelque chose. Il faut aussi que les gens soient mieux et qu'ils obtiennent les meilleurs résultats. C'est voilà. Ça aussi. Mais on ne fait pas un projet d'administration pour tirer sur une voiture, pour tirer une performance. Mais on veut quand même qu'il y ait quand même une efficacité. L'efficience, ce n'est pas un gros mot. On peut aussi... La dignité du fonctionnaire, aussi, on en parlait tout à l'heure à l'aparté.
Exactement.
La dignité du fonctionnaire, c'est aussi d'être reconnu par rapport à son travail, quelle que soit sa mission.
Donc.
Et je pense que c'est une question de dignité et pas du tout d'asservissement ni de quoi que ce soit.
Bien entendu. Donc, justement, par rapport à ça, plan d'augmentation de la productivité publique, allez-y, mettez-le, fichez-le, parce que justement, c'est dignifiant pour tout le monde. avec des objectifs et avec, bon, j'ai cité l'exemple de, avec des exemples de, avec des chiffrages, allons jusqu'au chiffrage. Les 400 000 euros de nouvelle création de valeur publique, grâce à l'augmentation du temps de travail des agents, on en fait quoi ? Voilà, et on discute de ça. C'est ça le sens. Sachant qu'il y a d'autres pistes hein, dans tout ça que vous connaissez aussi. Alors c'est plus la réduction des heures supplémentaires dysfonctionnelles. Voilà. Parce que dans la masse d'heures sup, il y en a qui sont bon, inévitables, incompressibles, mais il y en a qui sont liés à des tâches avec des dysfonctionnements qu'on est obligé de rattraper, etc. Donc c'est celle-ci qu'il faut évidemment corriger et éliminer. Et ce d'autant plus que on a eu des discussions sur le sujet, avec également d'autres DGS, appuyant finance, etc., d'autres communes. Effectivement, donc le management public et l'État ne récompense très mal la vertu. C'est-à-dire que si vous êtes vertueux, si les impôts n'augmentent pas, si bah, finalement, et dans ce qui est annoncé, alors on en a discuté hein, dans les différentes réunions que j'ai faites avec sur la question, avec des experts sur la question, effectivement, comment récompenser mieux au niveau des politiques publiques les communes qui font ces efforts justement d'augmentation de productivité, et comment mieux récompenser, parce que le statut de la fonction publique permet difficilement de vraiment bien récompenser également les agents vertueux qui sont majoritaires, hein, il n'y a aucun doute là-dessus.
Ça se pratique avec une masse salariale qui régulièrement est revue avec des promotions, mais le niveau de rémunération oui. de notre commune est plutôt plus élevé que par rapport à certaines communes de même strate.
D'accord, mais ce qui va être intéressant, c'est que bah, il va y avoir les résultats en mars 2018 du comité Action publique 2022. Très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça va être les conclusions donc, du groupe de travail qui a été mis en place sur la refonte du statut de la fonction publique pour justement permettre aux cadres et élus publics de mieux manager leurs ressources humaines hein, avec des facilités, des fluidités pour les promotions, etc. Donc ça tombe très bien, si vous voulez, en plus, hein, ce plan. Bon, voilà. Hein.
Mais... Moi, je finirai sur une pirouette, votre introduction sur Bocuse. Vous disiez que c'était le moment où vous avez l'impression d'avoir réussi, que les ennuis commençaient. Je n'ai pas l'impression que nous ayons définitivement réussi. Et à mes côtés, pour être dans la métaphore culinaire, ce n'est pas trop gros, j'ai l'impression que c'est Sisyphe. Parce que... On n'a jamais fini. Au moment où on est arrivé à faire quelques économies, ça redescend et il faut repartir.
C'est ça.
On est dans cet exercice. Et je le dis de manière humoristique, mais c'est sérieux.
Et elle a raison, Caroline Favier, parce que là, en fait, la réduction des coûts, c'est permanent.
Et voilà.
C'est à vie, en fait. Voilà. C'est pas une fois, c'est tout le temps.
Et quand vous pensez avoir gagné sur une ligne, effectivement, il y en a une autre qui vient d'être perturbée. C'est... Mais bon... Ça fait partie du job. Par contre, voilà, j'ai bien noté votre questionnement sur... c'est même plus du questionnement, c'est une volonté de comment réfléchir ensemble et comment avancer sur...
C'est le formaliser, annoncer, promouvoir, servir d'exemple, au niveau... Puisque...
Comme on parlait de l'agglo, bon, on discute de tout ça ici, mais... Ils en sont où à l'agglo ? Ils sont à 32 heures, j'imagine. Enfin, bon, vous voyez. Donc, si vous voulez, voilà, ça peut servir d'exemple aussi, tout ça.
Hein. Gros absentéisme, enfin, il y a d'autres soucis. Hein.
Merci, M. Campelletti. Pour le groupe, Mme Muller, Mme Corso, vous désirez faire une intervention ?
Non, mais je trouve que le rapport d'orientation du budgétaire a été clair pour moi. Ça m'a convenu. Voilà.
Merci madame. Donc soyez certains que c'est une première approche, nous aurons l'occasion de nous voir. Merci pour cette
question. Ça veut dire que le FN ne participe pas au débat budgétaire ?
Pardon ?
Ça veut dire que le FN ne participe pas au débat budgétaire ?
C'est sérieux, moi, c'est pas moi qui l'écris ça.
Tu t'es argumenté pendant 2 heures là, tu nous donnes une leçon et maintenant tu peux recommencer, ça suffit.
Voilà. Bien, alors, M. Pradeil, il va bientôt prendre la plume pour être éditorialiste. Donc, chaque groupe s'est exprimé. Nous aurons l'occasion de revenir lors des différentes commissions à venir. Un dernier mot pour M. Bourguet.
Oui, c'est juste une petite remarque sur les rapports hommes-femmes dans le personnel. Je vous remercie d'ailleurs pour cette analyse qui était très intéressante. J'ai remarqué qu'il y avait plus de contractuels chez les femmes que chez les hommes. Donc je ne sais pas si ça va se rééquilibrer, ça, ou pour quelle raison, je ne sais pas. Et ensuite, on a dit qu'il y a beaucoup de femmes cadre A, cadre B, directrice de service, et pourtant les salaires sont inférieurs pour les femmes. Donc je ne sais pas si c'est lié au temps de travail.
C'est lié à l'ancienneté. Je me suis posé la question aussi quand j'ai eu le rapport en main, parce que mon côté féminin, forcément, je me suis posé la question. Et donc je suis allée interroger les personnes qui avaient les réponses et qui m'ont dit qu'effectivement sur les postes de direction il y a une ancienneté plus importante.
Alors c'est vrai qu'au niveau des personnels qui parfois sur la maintenance ou dans les écoles on a davantage de personnes féminines que masculines, ouais, catégorisées. Mais on lutte contre la précarisation en intégrant les personnes que nous estimons méritantes.
C'est ça Laurent ? J'ai pas fait d'erreur.
La meilleure façon d'avoir du personnel féminin avec nous, c'est d'en embaucher plus à contractuel, puisque c'est l'occasion pour nous de les tester et donc après de les pérenniser, tout simplement.
Bien, on passe au budget du poste.
Allez.
On vote. Hop, hop, hop. On vote.
On a défini
des orientations, des contenus. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on passe maintenant au budget du port.
Oui. Donc, au niveau du port, donc, ben, même chose, bien sûr. Le rapport consiste à préciser les orientations budgétaires et les engagements pluriannuels envisagés pour la régie municipale du port de Carnon en vue du vote du budget primitif de 2018. Alors, le premier point que vous avez au niveau des objectifs du budget proposé, c'est le dragage. Alors là, j'ai une modification à apporter, puisque entre le moment où le ROB a été fait et aujourd'hui, on a des informations supplémentaires, et notamment une estimation du coût du dragage qui est complètement différente. Donc, le document que vous avez reçu vous indique que l'idée est de poursuivre la constitution de provisions pour les opérations futures de dragage, que les provisions actuelles accumulées sont de 842 000 euros hors taxes et que les estimations qui étaient proposées, donc dans un premier temps, je vous le redis, l'hypothèse de déposer au niveau du triangle de l'Avranche était chiffrée à 4,5 millions pour arrondir. Donc ça avait été de toute façon refusé par les services de l'État. La deuxième hypothèse, l'évacuation des sédiments en déchetterie était chiffrée à 7,8 millions. Et entre-temps, donc entre la constitution de ce document et ce soir, nous avons eu un autre chiffrage qui est chiffré, lui, à 2 105 000 euros, donc beaucoup plus raisonnable, et qui consiste à un clapage en mer à 7.
Alors c'est une étude qui a été produite par le cabinet Safège. Il va de soi que ces 2 millions sont une somme encore trop importante. Après de nombreux va-et-vient avec les services de l'État, nous avons obtenu la tenue d'une réunion la semaine prochaine avec l'ADREAL, les services de l'ADREAL, pour justement évoquer, même si la région nous aidera certainement, puisqu'elle est en charge de l'évacuation des déchets, on ne peut pas se satisfaire d'un budget qui est à la hauteur carrément, quasiment, du budget annuel de la structure du port. C'est-à-dire que ce qui a été envisagé dans un premier temps, ce sont le pire des scénarios, et là, on se rapproche vers quelque chose d'un peu plus réaliste. Monsieur Otegui, secrétaire général de la préfecture, s'est engagé à mutualiser avec les autres ports qui ont besoin de dragage, mutualiser les amenées de marge, par exemple, en tout cas les amenées de logistique qui permettront de diminuer d'autant les dragages, puisque aujourd'hui, cette interdiction qui nous frappe renchérit le coût par, on va dire, par 4, par 5. Et donc c'est quasiment insupportable. Donc nous sommes en voie, pas en voie d'eau, mais enfin en voie de trouver une solution, j'espère, compatible avec les ressources du port, parce qu'on ne peut pas opérer totalement, définitivement, irrémédiablement, le devenir du port, simplement en faisant une opération, celle de Sisyphe tout à l'heure, c'est-à-dire enlever un peu de vase, les 30 000 mètres cubes, pour dans 4 ou 5 ans, en être au même point. Donc ça veut dire que tous les éléments qui concourent, toutes les collectivités du bassin versant, seraient associés au paiement de l'évacuation de ces déchets, qui ne sont pas des déchets, de ces sédiments, un petit peu à l'image de celui qui aurait de chaussée, et qui paye tout seul ce qu'envoient les gens du 6e, du 5e, du 4e, ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à présent, c'était possible. Avec 400 ou 500 000 euros, on arrivait à faire un dragage. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. L'État en a pris conscience. Les interdictions qui nous frappent par rapport au PPRI ou par rapport à certaines décisions environnementales devront être nécessairement accompagnées, peut-être de mesures transitoires pour cette fois-ci, et de mesures définitives qui mettront autour de la table le paiement de certaines collectivités qui nous envoient les sédiments et qui aujourd'hui en sont totalement exonérées dans leur élimination. On ne peut pas faire supporter ça simplement aux riverains, aux finances communales ou aux usagers du port. Voilà. C'est pas une déclaration de guerre. C'est carrément quelque chose de bon sens que je propose. Un commentaire. Voilà. Hein? On laisse développer, puis je vous donnerai la parole, madame Romain, si vous voulez. Sauf si c'est...
Juste, il faut déboucher l'étang de l'or. Et ça, il y a des choses à faire sauter parce que les sédiments iront directement à la mer et on n'aura pas besoin de les clapper en mer.
On est d'accord sur le principe. Merci. Vas-y, Carole.
Le deuxième point sur les objectifs du ROB du port, c'est la capitainerie. Donc, nous avions voté une opération donc, de démolition et reconstruction de la capitainerie à hauteur d'1,667,000. Et on a eu un résultat infructueux du concours d'architectes. Donc ce concours est relancé début 2018. Là, en ce moment, il est relancé.
Le prochain conseil nous autorisera, ou pas, ben j'espère, à relancer ce concours. Non, mais faisons les choses dans le formalisme qui convient. Voilà.
Alors, maintenant... au niveau des recettes, du port, il y a eu une modification puisqu'il y a eu une installation de compteurs divisionnaires sur les alimentations électriques des bornes de quai des plus grosses unités. Donc, c'est-à-dire qu'il avait été décidé d'installer des compteurs divisionnaires sur ces bornes de quai de façon à ce que chaque consommateur paie sa consommation, bien sûr. Donc l'objectif, c'est une question d'économie et d'environnement. Donc induire une démarche responsable de réduction des consommations de ces fluides par les plaisanciers et réguler équitablement les tarifs annuels d'accostage en tenant compte de l'utilisation de chacun, de la consommation de chacun. Au niveau des tendances budgétaires 2018 pour le port, les estimations de recettes au niveau du budget de fonctionnement. Donc les recettes, le montant s'élève à 2 319 221 euros hors taxes. Les recettes principales du budget de fonctionnement du port, ce sont les ventes de produits fabriqués. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est la vente de produits finis, ce qu'on appelle produits finis, c'est la vente de carburant, mais vous savez depuis qu'on présente le budget du port que sur la vente de carburant on prend très très peu de marge, donc ça c'est juste achat-revente.
C'est 7 millions d'euros.
Voilà. Par contre, les recettes, c'est tout ce qui est prestation de service. Donc la prestation de service, vous avez les
levages.
Voilà. C'est ça, je ne maîtrise pas encore tous les termes, hein, j'ai besoin de mes petites notes. L'élevage, c'est ça. Et les locations annuelles, bien sûr, qui représentent 1 788 000 euros. Donc, au niveau ensuite des recettes de redevances d'amodiation, qui compose aussi un produit important de tout ce qui est budget de recettes de fonctionnement. Les occupations des terres-pleins de longue durée, Donc, il faut savoir qu'on a Carnon Plaisance et la SCI Jean-Pierre qui arrivent à expiration au 31 décembre 2018 et que la régie du port a engagé la révision du cahier des charges par rapport à ces, amodiations. Au niveau de l'évaluation prévisionnelle des dépenses de fonctionnement, donc au niveau des dépenses de fonctionnement, donc bien sûr le même montant, 2 319 221 euros hors taxes. Alors, elles sont composées par deux chapitres les plus importants, les charges à caractère général et les charges de personnel. Au niveau de... Au niveau des évolutions de la section de fonctionnement, donc les recettes de fonctionnement, on a sur ces quatre dernières années, d'une part avec l'augmentation des tarifs votés annuellement, ce qui a permis aussi l'évolution des recettes de fonctionnement, c'est le remplacement du portique de manutention qui permet de dévier des bateaux beaucoup plus lourds et donc d'augmenter les rentrées d'argent. C'est aussi le réaménagement du bassin ouest qui génère des ressources supplémentaires. Au niveau des recettes d'investissement pour 2018, donc les recettes d'investissement, c'est... alors on a le détail là... des subventions, mais ce n'est pas le plus important. On a les opérations d'ordre de transfert, bien sûr, de la section de fonctionnement sur l'investissement. Et au niveau des dépenses, la plus grosse dépense, bien sûr, ce sera la capitainerie pour 2018. Les moyens humains, bon, pour entrer pareil, puisque le ROB doit aussi donner des précisions sur les moyens humains, donc sur l'effectif de l'équipe portuaire, nous avons 16 agents en permanence, 14 agents de la fonction publique territoriale et 2 agents de droit privé. Au niveau de la dette pour le port, vous avez à ce jour 9 emprunts, donc représentant un endettement de 2 676 844 euros. Donc au niveau de la synthèse de l'analysation financière, donc on avait évidemment sur les endettements, pour l'instant c'est reporté le prêt lié à la capitainerie. Au niveau du dragage, reste à affiner suite à la réunion qui se passera la semaine prochaine. Parc à dériveur où on a un prêt de 250 000 euros et pour le stockage à terre, un prêt de 500 000 euros. Le stockage à terre, j'en ai pas parlé. Il y a une... Donc ça, c'est ce qui est projeté pour être modifié dans les prévisions.
Oui, il va y avoir disons, une optimisation qui sera due à la rénovation du stockage à terre pour l'adapter aux besoins de la navigation d'aujourd'hui, puisqu'on perd certaines places parce que les capacités de stockage sont dédiées à des bateaux qui sont trop petits. Et il y a une mutation dans les bateaux. Et aujourd'hui, il faut qu'on dispose davantage de places pour des bateaux de taille un peu plus grande. Voilà.
Oui, je confirme. Il y a 14 postes aujourd'hui qui sont inoccupés parce qu'on n'a pas la taille des bateaux. Voilà.
Et puis donc... les amodiations, des terres pleines qui seront revues à l'année 2019.
À l'occasion des deux échéances au 31 décembre 2018. Donc, au niveau du budget du port, ce qui est prévu, c'est alors, bien sûr la remise à niveau des ouvrages portuaires et leur entretien qui se poursuit sur l'année 2018, avec pour objectif de maîtriser les dépenses de fonctionnement, bien sûr, comme la commune. Il convient aussi de prendre en compte la nécessité de procéder, c'est ce qu'on vient de dire, à la rénovation du stockage à terre. Tout ça avec un maintien de vigilance par rapport au dragage, puisqu'on sait qu'il va nous coûter, une certaine somme. Voilà. Le projet de la capitainerie qui est relancé 2018. Et l'étude d'optimisation des zones amodiées, puisqu'on profite de cette échéance pour faire des modifications.
Merci Caroline. vous avez la parole si vous avez des questions ou des commentaires ou des informations ou des suggestions.
Je voulais juste savoir, parce que il y a une rumeur qui a circulé, j'ai bien dit une rumeur, qu'il y avait des menaces de privatisation du port de Carnon. Alors, je voulais savoir si cette rumeur était fondée sur quelque chose ou pas.
Privatisation du port de Carnon ? Ça veut dire quoi ? Chinois, oui.
Donc non, il n'y a rien de fondé.
Quelle privatisation ?
Ah, je ne sais pas, c'est des rumeurs.
Ah bon ? Écoutez, on va attendre que les rumeurs avancent ou reculent. Hein. Voilà. J'ai pas vendu le port.
D'abord, je voulais savoir pourquoi cette histoire de capitainerie, pourquoi ça a rien donné ? C'était au niveau esthétique, au niveau technique ?
Alors effectivement, si vous voulez, l'analyse de l'offre. Nous avons eu une quarantaine de candidats, parmi lesquels nous avons sélectionné 3 candidats au final. Ces 3 candidats ont été indemnisés pour concourir et présenter une esquisse. Et effectivement, le rendu des esquisses qui a été présenté, même en étant, je pense qu'on était en meilleur recours avec l'un des 3, même pas, une discussion, puisqu'elle avait complètement, cette personne, répondu à côté du sujet, sans tenir compte du cahier des charges, dans la proposition qui a été faite. C'est-à-dire que dans les extensions, ça avait l'air bien, mais dans ce qu'elle a proposé, cette personne, ce n'était pas tout ça. Et puis, dans les 2 autres, on n'a pas retrouvé, si vous voulez, le côté totémique qu'on voulait donner et le côté novateur qu'on voulait donner aux fonctionnalités également de la capitainerie. La capitainerie, ce n'est pas un objet d'art, c'est d'abord quelque chose d'utile. Mais ça n'avait pas, si vous voulez, le projet qui était le plus près de ce qui aurait pu justifier un choix n'était finalement que la réplique de ce qu'il y avait aujourd'hui, et à se demander si ça valait la peine qu'on la refasse. Voilà. Franchement, c'était... Nous avons été déçus. On va dire que la production des candidats ne correspondait pas à l'attente du jury, et même les professionnels, puisque nous avons été assistés par des professionnels, ne se sont pas reconnus dans la justification d'une attribution. Voilà, je veux dire, le sujet a été largement débattu. Ils ont dit, on a préféré, plutôt que de faire une sottise, la sottise c'est quoi ? C'est une partie plus architecturale qui n'aurait pas correspondu vraiment à refaire quelque chose qui a été construit il y a 40 ans. Autant repartir sur quelque chose qui est... Alors, novateur, ça veut dire quoi ? Que ça ne sera plus à la mode dans 40 ans. Mais quelque chose de fonctionnel, avec des matériaux, des partis pris architecturaux, des éclairages et des fonctionnalités qui soient à la hauteur de 1,7 million quand même. On ne peut pas gaspiller l'argent. Voilà. Et c'était vous, madame, ici, qui étiez... Vous pouvez, je vous donne la parole si vous voulez.
En fait, on aurait choisi par défaut un candidat et c'était pas le but.
Non.
Le but, voilà. Non. Sachant qu'il y avait un projet, c'était rien à voir avec ce qui avait été présenté au début.
Absolument. Enfin. Il y avait un décalage entre l'intention et ce qui a été livré. Voilà. Donc on préfère repartir sur, j'espère, des bases solides et en tout cas une vision plus aboutie. Voilà, ça
retarde un peu.
Donc on va inscrire une somme cette année qui ne va pas être forcément consommée en fonction du résultat et du temps que ça prendra. Voilà.
Vous avez une explication. Madame Comarou.
Je me rappelle que le programme qui avait été choisi démolition complète et reconstruction complète.
Oui.
Et on nous avait dit que c'était moins cher que l'amélioration de l'existant. Et donc, je me demande si dans les propositions qui ont été faites, est-ce que, les candidats ont été bridés par l'enveloppe budgétaire Parce que je me rappelle que dans cette assemblée, pendant qu'on a voté, quelqu'un de cette assemblée a dit « Oh, c'est très bien, comme ça on va avoir une construction préfabriquée et on sera tranquille pendant 30 ans. »
On a eu, si vous voulez, l'assurance par les professionnels que la somme allouée correspondait bien au projet que nous souhaitions. C'est-à-dire quelque chose qui est pas pharaonique, quelque chose de fonctionnel, quelque chose de moderne, avec des matériaux également qui respectent ce parti pris environnemental des normes BDM. Peut-être une structure bois ou quelque chose de léger par rapport aux pieux, mais moi je ne suis pas architecte, je ne peux pas dire. En tout cas, il n'y a pas de décalage entre la somme allouée et le but et l'objectif visé. Voilà. Enfin, sinon, on nous l'aurait dit, on nous aurait dit, madame Arlino ici, vous êtes témoin. Les gens qui étaient là, les professionnels qui étaient là, ouais. On dit non, ça ne correspond à quelque chose. Voilà. Et en plus, si vous voulez, le parti pris était également d'offrir, d'aménager l'espace public. Aujourd'hui, c'est terrible quand on est cardonné, même quand on n'est pas cardonné, quand on veut se déplacer du quai Meunier et qu'on veut aller vers la place Cassin, c'est pas un coupe-gorge, mais c'est pas facile du tout. Ben nous, ce qu'on veut aussi, c'est ouvrir un petit peu cette capitainerie au cardonné, l'ouvrir au tourisme. C'est une nécessité. Et on n'avait pas un parti pris architectural qui aille dans ce sens. On l'a suffisamment affirmé. Tout à l'heure, M. Capelletti a parlé de timidité, là c'était moins que timide. Il fallait le chercher, le parti pris. Voilà.
J'avais une autre question, c'est toujours cette histoire de lien avec Carnon Ouest, ouais. Qui est revenu dans le PPI. Je voulais savoir s'il y avait des pistes, des idées qui avaient émergé.
Ben, c'est simple, hein. Vous pouvez aussi en parler en famille, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans le plan littoral 21, il n'est pas impossible que la région nous donne un coup de main pour cette liaison. On a rencontré l'ancien concepteur de la capitainerie, M. Boutrelli. Il disait qu'à l'époque, il voulait faire également une liaison. Elle manque, cette liaison. Malheureusement, comme on est réaliste, on n'a pas les yeux plus gros que le ventre, la somme aujourd'hui, elle pourrait se justifier tout autant qu'on ferait des aménagements à Carnon-Ouest, au niveau urbain, au niveau de faire une proposition, j'allais dire, touristique plus aboutie, qui n'est pas aujourd'hui une inscription budgétaire prioritaire. Ça pourrait se justifier dans un deuxième temps, mais si l'aventure, le train de subvention, je parle franchement, passait et rendait éligible une partie du financement, ben, nous ferions en sorte de voir comment cette chose-là peut se réaliser, en sachant aussi que ça n'est pas simple par rapport aux fonctionnalités du port, que les marins, eux, préfèrent ne rien avoir que d'avoir quelques restrictions, mais vivre ensemble, c'est aussi accepter de partager les libertés. On ne peut pas faire les choses que pour les cardonnés, que pour les marins, d'autant que les marins ne sont pas que des cardonnés. D'un moment donné, le compromis, ben, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est une question d'intelligence collective, de solidarité. Si on pouvait d'aventure trouver un système qui fasse une liaison acceptable pour un prix qui serait celui qu'on pourrait mettre avec une aide de la région, eh bien, on est prêt à l'envisager. Voilà. La réponse est tout à fait claire.
Bon, très bien, merci.
Vous la connaissez un petit peu, certainement.
Pour voir où ça en était, c'était pour voir où ça en était.
Voilà, écoutez, vous avez deux antennes.
D'accord.
Profitez des conseils municipaux, c'est bien. Très bien. Bien, donc, Monsieur Pradeil.
Je reviens sur les amendations. Vous parliez de modification du cahier d'échange. Vous pouvez en dire un peu plus.
En fait, si vous voulez, aujourd'hui, les amodiations qui sont consenties, elles sont au niveau. Alors, on a une amodiation d'une unité de maintenance où il y avait UCHIP, où ils ont pondu les plombs, ils sont en liquidation ou en redressement judiciaire, ils ont des problèmes financiers, la modiation ne marche plus, ils ont du mal à payer. Il y a deux amodiations. Là, c'est 7 500 € ou 5 000 €. Trois fois rien, c'est que de cerises. Il y a les amodiations où se trouvent les bâtiments de Carnon Nautisme, vous savez, les deux hangars là, magnifiques, qui sont à côté de la passerelle. Donc, l'idée, c'est de les faire démolir et de repartir sur quelque chose de plus long, de mieux rémunérateur et qui permette à l'investisseur de faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Quand je dis intelligent, quelque chose de, pardonnez-moi pour le terme, plus intégré dans la modernité que nous souhaitons conférer à Carnon. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que ce soit fonctionnel, que ça serve le professionnalisme des métiers de la mer. Pourquoi ne pas imaginer un endroit où il y aurait un magasin d'accastillage avec un dieseliste, un ami, des services que parfois nous n'avons pas. Arriver, si vous voulez, à optimiser quelque part l'espace public, quitte à le reconfigurer pour permettre l'émergence d'un showroom ou toujours dédiée au métier de la mer, arriver à trouver quelque chose qui soit à la fois efficace, puisque c'est un terme que l'employé pour le personnel, on peut l'employer aussi pour les éléments, et aussi beau, si c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on souffre d'avoir une activité économique incompatible avec l'activité touristique. On a parlé de tourisme tout à l'heure. Notre idée était d'aménager le triangle de la branche pour des configurations dédiées au métier de la mer. Il semble que ce soit bien compromis. Et donc cette idée de transférer le domaine à Maudier derrière et d'en faire devant quelque chose de touristique, ça semble très compromis. Donc on va rebattre les cartes en gardant les mêmes amodiations sur des durées plus longues et mieux rémunérées, parce que l'exigence sera supérieure. C'est un petit peu comme les concessions de plage. À le faire, on ne va pas le faire au pourrier. En tout respect des gens qui occuperont les lieux. Et vous le savez, la loi d'avril 2017 nous oblige à relancer l'amodiation de l'espace public. Il n'y a plus ce droit de préférence qui était celui dont disposaient les anciens amodiataires à proposition légale. Voilà, donc on va remettre les cartes et travailler sur un cahier des charges. Voilà. Leur aménagement est en train de nous faire un cahier des charges pour justement voir comment on peut optimiser les recettes potentielles de ce port sans forcément les prélever sur les gens qui ont un bateau. C'est toute l'activité nautique qui est autour. Moi, j'aimerais bien qu'on parle beaucoup de la grande motte qui développe, parce qu'il y a un espace beaucoup plus large. Bon, le costume est beaucoup plus large, hein, au départ. Celui qui a été taillé par Maladur, nous, on a eu vraiment un chantier. Arriver quand même à proposer une offre cohérente pour les métiers de la mer, à l'échelle de Carnot. On a 800 anneaux, on n'en aura pas 8000, mais au moins que ces 8000 ces 800 anneaux disposent des services dont ils sont dans le droit d'attendre. Ils sont dans le droit d'attendre. Voilà. Voilà l'idée. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de voter ce rapport d'orientation budgétaire pour Carnot. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a un dernier point?
Oui, on a un dernier point, c'est exact. C'est une délibération, la troisième.
Oui, mais 800 à flot. Oui, pardon, 800 à flot. Et pas tout à fait, 330, 340, oui, on est en 3290 à peu près. Au stockage à terre. Comment aussi optimiser? Donc là, il y a des recettes potentielles à venir.
Le troisième point, c'est juste sur l'autorisation de programmes et crédits de paiement, c'est-à-dire le fameux APCP pour l'îlot Prévert. Je vous en ai parlé dans le rapport d'orientation budgétaire de Mobio, c'est-à-dire qu'il nous reste un paiement pour 2018 de 3 285 000 euros. Donc, je vais quand même vous lire... Il convient, monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que la commune de Mobio-Carnot a lancé en 2015 une réflexion sur la réhabilitation de l'îlot Prévert. Plusieurs axes majeurs s'étaient dégagés de cette réflexion. Conserver et mettre en valeur le patrimoine melgorien, créer un espace de rencontre et de loisirs en centre-ville dédié aux associations de la commune, favoriser l'installation d'entreprises tertiaires en centre-ville. Les crédits de paiement totaux sont portés à 3 050 000 euros jusqu'en 2018. 3 500. Alors, je pense qu'il y a un hors-taxe, c'est 3 millions, oui, c'est ça, il y a un PTC jusqu'en 2018. Il convient donc de modifier l'autorisation de programme comme suit. Donc, les 3 285 000 euros pour 2018. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les modifications de l'autorisation de programme AP16-8108 telle que présentée ci-dessus.
Bien. Je vous propose de valider ce principe. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci aux uns et aux autres pour votre participation. Rendez-vous pour le prochain conseil le 19 février pour le débat d'orientation budgétaire. Vote du... Excusez-moi. Le vote du budget. Il était temps que ça s'arrête. Voilà. Merci. Bonne soirée. 19 février. Lundi 19. C'est le même jour que la réunion? Non, attendez, je me trompe. L'urbanisme, c'est le 14. C'est pas... Non, je ne me trompe pas. Là, on est... Avec la Saint-Valentin, on est comme les bestioles dans la confusion sexuelle.
Non,
mais...
Non,
il n'y en a que deux, merci. Merci.